Ah ben ça s'arrête tout net et tout nettement. Bonsoir à tous. En ce mardi, on est le 10 octobre 2023. Comment ça va, vous? Qu'est-ce qu'il est bizarre, ce plan. J'ai bougé ma caméra. Oh, ça ira bien comme ça. Ça va, c'est cool. On est entre nous. Voilà, c'est bien. Vous allez bien? Vous connaissez le dicton: quand on ne peut pas streamer le matin, on stream le soir. Ça n'est pas mon rythme habituel. Je vous ai plutôt habitué à streamer le matin, ce qui est assez logique pour les journaux, mais on essaye d'être là le plus souvent possible, ne pas être un streamer intermittent. Et on a pris la décision, je sais que je parle à la troisième personne comme les souverains, c'est un petit peu étrange. J'ai pris la décision, quand je ne pouvais pas streamer le matin, notamment quand je tourne Question pour un champion, plus qu'une journée d'ailleurs, je suis encore en tournage demain, et bien du coup je stream le soir. Voilà, ce qui fait plaisir à certains qui ne peuvent pas me voir le matin, comme Dionysos. Dionysos, tu disais merci, live le soir, impossible de te suivre le matin, c'est un vrai plaisir. J'ai vu qu'il y avait un anniversaire, peut-être de Camille, Pépin Camille. Habitué de cette chaîne aujourd'hui, puisque je vérifie toutes les infos, c'est ton anniversaire, Camille. Bon anniversaire de la part de tout le chat, tu l'as vu, et de ma part aussi. J'espère que tu vas bien, et ben du coup c'est ma façon de célébrer cet anniversaire. Salut Nick Douille, joli pseudo, merci pour le prime. Bayak, merci beaucoup pour ce 10e mois d'abonnement. Brandy Hot Dog, joli pseudo, merci pour le 26e mois d'abonnement, on peut pas faire plus, merci. Le Cetache, Béret, Katia, Ankila, Exiris pour le soutien. On va reparler du Proche-Orient aujourd'hui, comme on l'a fait longuement hier soir. Je vous avoue que c'est une actualité qui est lourde. De temps en temps, je m'applique à trouver quelques motifs d'espoir, de lumière dans l'actualité, parfois des bonnes nouvelles, voilà, pour équilibrer un petit peu la somme inouïe de crises, de guerres, de soucis, de problèmes, de drames dont je vous parle régulièrement. Mais là, c'est vrai que... difficile à faire avec cette actualité qui s'impose à nous et sur laquelle je ne veux pas faire l'impasse. Donc on va en reparler beaucoup ce soir, mais il n'y aura pas que ça, puisque je vous ai trouvé d'autres actualités aussi en lançant pour 2h30, je pense. Voilà. Puis après j'irai bosser, parce que Je n'ai toujours pas mon tour de table de l'hebdo Étienne de vendredi. Hein, 4 invités toutes les semaines, c'est parfois compliqué. Et là, il m'en manque un, donc je vais faire un peu de programmation ce soir. Et puis, j'ai des trucs à faire sur d'autres streams à venir. Là. Voilà, c'est bon, c'est bien, c'est sympa, c'est entraînant, c'est vivifiant, mais ça prend du temps. Voilà. Quand je vais me mettre à streamer du jeu vidéo... Oh, qu'est-ce que c'est que ce joli raid? Merci beaucoup, Captain Haddock, pour ce très gentil raid du soir. Merci beaucoup. Quand je vais me mettre à streamer du jeu vidéo pour que vous puissiez vous moquer de moi, eh bien, le peu de temps qu'il me reste va totalement disparaître. Merci, Captain Haddock. Touk. Un avis sur le conflit actuel. Algie, alors, je vais essayer de ne pas répéter tout ce que j'ai dit hier soir parce que ce serait fatigant pour ceux qui étaient là hier. Sache que cet avis... supposer que je puisse avoir un avis, mon regard, mon sentiment sur ce qui se passe entre Israéliens et Palestiniens aujourd'hui, entre Israël et le Hamas. J'en ai très longuement parlé hier. Je vais éviter de me répéter trop, mais de toute façon, on va le réexprimer ce soir. Je voulais juste vous montrer la chaîne qui vient de nous faire un joli raid, hop, qui est ici, Magine Internet. Captain Haddock, ancien accessoiriste slash décorateur, cool. Trentenaire expatrié dans le sud-ouest, la chance, le capitaine Haddock vit sur un bateau qui vogue sur les mers de Twitch. C'est joliment dit, en tout cas. À bord, donc, cinéma, vlog, jeu, karaoké, trop bien, ça veut dire que tu chantes mieux que moi, jeu de rôle et cuisine. Tiens, le jeu de rôle, c'est aussi un univers que j'aimerais bien explorer, ça. Mais ça en fait des univers à explorer. Il faudrait que je trouve un petit peu de temps. J'ai arrêté la matinale de France Info pensant que j'allais avoir du temps, que j'allais pouvoir dormir, me reposer. Et en fait, j'ai l'impression que j'en fais encore plus qu'avant. Merci, Rome Zdom, pour le soutien. Til Paris me dit « Salut Sam, tu as vu que Yann Le Bret t'imite maintenant ?» Oh, il le fait depuis longtemps, en fait. Je vois ça sur Internet, ça pop sur Internet maintenant, mais il le fait quasiment depuis mes débuts, depuis que j'ai remplacé Julien, en fait. Ouais. Pantado, est-ce que je vais inviter Marcus pour un Samplay ? Bien sûr que Marcus va être invité. Il est même invité, déjà, et il a même dit oui. Le suspense, ça va être pour la date, mais Marcus va venir à la maison. The Pifol, je suis tributaire des articles que je trouve dans les journaux, puisque c'est la source d'information que je vous propose de lire, en général le matin, mais là le soir. Tu me parles de Thomas Braille et de l'A69, je suis un peu déçu de ne pas trouver d'article sur... cette actualité, hein, cette mobilisation contre l'autoroute A69 et Thomas Braille, si je ne dis pas de bêtises, qui a décidé non pas une grève de la faim, mais une grève de la soif. Je crois qu'il ne boit plus, ce qui pourrait aller très très loin en conséquence, en termes de conséquences sur sa santé. Je suis très surpris de ne pas avoir vu d'article. Je pense que j'en aurai demain, mais peut-être que sur les sites internet des journaux que je vous lis, on va trouver un article. Et si tu m'y fais penser, j'essaierai d'y penser moi-même. On essaiera de trouver un article tout à l'heure, en plus des articles que je vous ai mis de côté. C'est vrai que mon Alexandra, tu as raison, c'est vrai qu'il est de travers le Tintin ce soir. Hop. Voilà. Le PC de gaming pour streamer, bien sûr, bientôt du jeu vidéo pour que vous puissiez vous moquer de moi. Il arrive jeudi ou vendredi, le temps de l'installer. On va se régaler. Joli jeu de mots d'Artigs, je ne vous reproche Orient. Pour ne rien, c'est joliment dit. Pantado, moi aussi je suis content de te lire. Il y a Espaf qui dit le soir c'est pas mal pour se débarrasser du stress de la journée. Enfin, ça dépend de l'actualité. J'avoue que la matière que je vous rapporte en ce moment, elle n'est pas de nature à vous apaiser trop. Mais bon, il s'agit de ne pas faire l'autruche et de se cacher le drame qui se déroule actuellement entre Israël et les Palestiniens, et évidemment qu'on va en parler, quoi. Ouais, Hugo, on va en parler, l'autoroute, bien sûr. Non, il y a des choses. Il n'y a pas des choses dans les journaux, là, mais il y aura des choses demain. Alors, je ne fais plus les matines en ce moment, Rachid, parce que je suis en question pour un champion pendant 6-7 jours d'affilée. Et là, je ne peux pas streamer, puisque je me retrouve en studio à partir de 9h le matin. Mais donc, je stream le soir pour remplacer. Voilà. C'est non. Il y a Jean-Marie Bigard qui vient d'arriver dans le chat, sous la plume de Clamakine, et qui dit « Bonsoir Samuel, c'est Jean-Marie Bigard. J'ai regardé ton émission du vendredi et je trouve que ça manque de blagues. Je te propose d'intervenir régulièrement pour réagir à l'actualité avec humour. En plus, tu sais que je suis un grand consommateur de vraies infos. Je viens gratuitement, mais tu peux me payer en liquide et je ne parle pas de billets. Ah, 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 ah. » évidemment, comment je vais le dire gentiment, comme je disais il y a un instant, Jean-Marie, j'ai déjà mes, je suis full au niveau des invités. Donc je n'ai pas de place, c'est dommage que ce soit avec plaisir. Bien sûr que nous aurions profité de ton humour, bien sûr. Pandalao, merci pour le deuxième mois d'abonnement. Pourquoi pas ? Il y a Thibaut qui dit, dis-moi que penses-tu d'inviter Story pour faire un samplet sur les jeux de catch ? Mais j'y avais pas pensé. Sans doute parce que je ne savais pas que Story, en plus de sa passion pour le catch, c'est pas con ça. Jouer à des jeux de catch, j'aurais dû y penser. Tel que tu me vois, je suis en train de le noter. C'est pas bête, c'est pas bête, c'est pas bête. Où est mon fichier spécial samplet ? Que j'ai des fichiers pour tout, moi. Comme c'est moi qui fais ma programmation. Où est-ce que j'ai mis ça ? C'est pas bête en vrai. Hein. C'est même pas con du tout. C'est même assez intelligent en fait. Je le note, voilà. Story, catch. Pourquoi pas, pourquoi pas ? Faudra juste que ça dure pas trop longtemps, parce que la dernière fois que je l'ai invité, Story, pour qu'il nous parle de sa passion pour le catch, le stream a duré plus de 7 heures. Voilà. Et je m'en souviens encore. D'ailleurs, c'est à partir de là où mon corps a commencé à me lâcher, hein, en raison du manque de sommeil. Voilà. Et c'est à partir de ce stream, en fait, que tout a commencé à partir en sucette, au niveau de mes organes. Hein. Les poumons, rate, cœur, arythmie. La rate, j'avais la rate qui se dilatait aussi un petit peu. Voilà. Donc oui, un stream de plus de 7 heures. On a fait 7h30, je crois. La prostate aussi m'avait posé des soucis. Donc, Story, s'il vient à la maison, ce sera pour un petit stream de 3 heures et pas une seconde de plus, parce que ça va aller maintenant. Voilà. Voilà. Je vous lis un petit peu parce qu'elle me met de bonne humeur et puis on va commencer cette revue de presse. Ça va depuis ? Bah non, je j'ai vraiment été impacté par ce stream. Il faut penser à mon âge quand même. Hein. 7h30 de stream à mon âge, c'est dur. Hein. Ouais. Baldur's Gate, on va le faire reste un moment. Alors vous savez, moi j'invite d'abord des streamers, des streameuses, des gamers, des gameuses, et le jeu c'est après, c'est-à-dire que j'invite des gens que j'aime bien et je leur dis au fait tu veux jouer à quoi, en leur faisant confiance pour qu'ils me fassent découvrir une dinguerie quoi, mais je le fais dans ce sens quoi. En tout cas c'est une très bonne idée. Oh merci beaucoup Playmo pour le gentil message à propos de l'hebdo Etienne. Faut juste que je trouve mon quatrième invité. Silver, tu as l'air si jeune. Oui, alors ça c'est d'abord c'est la crème, je mets beaucoup de crème depuis longtemps, voilà. Et puis c'est l'âge aussi parce que je n'ai que 22 ans donc c'est normal que je ne paraisse pas si âgé. Et puis j'ai repris le sport aussi et donc ma peau s'oxygène, c'est magnifique. Et là par exemple, je rentre tous les soirs en courant de questions pour un champion, ça me fait une petite heure, ça m'aère un petit peu avec mon petit sac à dos. Voilà, c'est pas parce que la journée est chargée qu'on trouve pas le temps de faire du sport, et pour le coup, ça me fait du bien. Du bien. Ah, vous savez, je vous ai parlé peut-être tarte tourte. Alors ça, c'est des blagues qu'on faisait au début des années 80, qui déjà à l'époque faisaient pas rire. Voilà. Tu vois, souvent la blague qui a été supprimée par un modo. Je vous la lis parce que histoire de mettre le nez littéralement dedans à tarte tourte qui dit et la coke aussi. Hein. Alors ça, c'est une blague qu'on faisait au présentateur au début des années 80, qui déjà à l'époque faisait rire personne parce qu'elle était un peu coconne, hein, pour dire les choses. À un moment, on n'est pas à la télé, la tarte tourte, on voit dire les termes. Donc Ta blague est ratée, elle est pas drôle, elle est même un peu nulle. Donc le présentateur qui a le nez dans la coke aujourd'hui, bon ça, voilà, c'est très, c'est, en fait si c'est très drôle, c'est excellent, c'est fin, ça se mange sans fin. Oh, c'est pitoyable. Je suis désolé, mais là en fait je l'ai tellement vu cette blague pourrie dans le chat de temps en temps là, en mode ah tu es présentateur donc ok, tarte tourte s'excuse, j'arrête. J'arrête la violence des mots. Désolé, je n'ai vraiment pas pensé au côté présentateur, my bad. Donc, ainsi, parce qu'en fait, quand tu es présentateur, animateur, tu as le droit tout le temps à cette blague. Tu es en forme. Donc, c'est que tu te drogues. Bon, ok, en fait, toi, c'était pas ça que tu voulais dire. Bon, le problème, c'est que par l'écrit, on ne comprend pas toujours le second degré. Tiens, j'ai les amis. Ils sont cool. Oui, vous savez que je vous ai parlé de... Les habitués, je vous ai parlé de la reprise de la rencontre Étienne. Ben, Story, c'était ça, c'était une rencontre Étienne pendant 7 heures sur le milieu du catch. Je vous ai parlé d'une rencontre Étienne qui revenait là bientôt avec le président de l'ARCOM, hein, l'instance chargée de la régulation de la télé, de la radio, et qui a aussi son mot à dire en matière d'Internet. Le président de l'ARCOM va venir sur cette chaîne pour répondre à vos questions sur la régulation de la télé, de la radio, sur la protection des publics sur Internet, sur la question du harcèlement par Internet, etc. Et il vient, pour parler de TPMP par exemple, presque, c'est vous qui posez les questions, donc c'est comme vous voulez, et il vient lundi. Voilà. Oui, il est au courant de la durée du stream, je lui ai parlé de 2 ou 3 heures. Voilà. Le vieux carton, ah bah il va pas être déçu avec nous, mais je pense qu'il sait à peu près. Voilà. Donc le président de l'ARCOM vient lundi à 20h. Il faut que je prépare le petit visuel. Voilà. Donc les blagues sur la coke, non. Lundi, il n'y aura pas de blagues sur la coke. Merci Litchi Sheepdog pour cette deuxième année d'abonnement. C'est quand même énorme. Merci Allseb pour ce troisième mois d'abonnement. Ouais, ça va être super intéressant. Ouais. Ça va être très très bien. Je pense que vos questions sont très très bien. Je pense que ces réponses sont très intéressantes. En fait, c'est né d'un déjeuner que j'ai fait avec une membre de l'ARCOM, une des sages, je ne sais plus combien, ils sont 9, je ne sais plus, de l'ARCOM, donc qui est née du mariage, de la fusion entre le CSA et Adopi, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, j'ai vraiment, ça m'a passionné en fait, que cette personne, 13 depuis la fusion, merci, ils ne sont pas 9, ils sont 13, merci beaucoup MMG, et en fait, l'exposition des missions de l'ARCOM, ça m'a vraiment passionné, parce qu'en fait, ça rejoint plein de questionnements qu'on se pose sur notamment la télé et sur Internet. Donc, je me suis dit que ça pourrait vous plaire. Voilà. Bien sûr, hein, mais en fait, il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a que des mauvaises réponses. Il y a Nat qui dit qu'on pourrait l'interroger sur le financement des médias publics, France TV, Radio France et l'arrêt de la redevance audiovisuelle, ou est-ce qu'il a un devoir de neutralité ? En fait, vous avez le droit de lui poser la question. Après, il a le droit de ne pas répondre s'il le souhaite. Mais c'est Twitch, hein, vous avez le droit. Si la question est correctement posée, me semble pertinente, je la relayerai bien sûr, quoi. Si la question c'est pardon, tarte tourte. Comme Samuel, c'est un présentateur, est-ce que tu penses qu'il se drogue ? Bon, je la lirai pas celle-là, parce que je la lirai pas pertinente, puisque je me drogue pas. Mais si c'est sur le financement du service public, c'est une question pertinente, quoi. Bien sûr. Premier stream pour lui. Ouais, Pierre-Yves, c'est clairement son premier stream, c'est sûr. Sûr. Qui nomme les membres de l'ARCOM ? Pat, c'est une question qu'on lui posera. Ouais. Manhattan 2. C'est bien d'écrire, mais c'est mieux de ne pas écrire n'importe quoi. Tu dois parler sur la guerre en Israël, Étienne. Bon, déjà, je m'appelle Samuel, donc ça commence mal. On dirait que tu préfères t'échapper. Alors, Manhattan 2, je t'invite à aller voir en replay. C'est gratuit sur ma chaîne YouTube ou si tu es abonné, non, tu n'es pas abonné, sur ma chaîne Twitch, le stream juste d'hier soir où on a parlé pendant 3 heures de ce qui se passe actuellement entre Israël et les Palestiniens. Voilà, donc c'est juste 3 heures. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de streamers qui hier en ont parlé 3 heures. Faut pas dire trop de bêtises, Manhattan, où il faut faire des recherches avant d'écrire des trucs. Hein. Tu peux pas dire que des bêtises en fait, non. Non, tu n'as pas le droit en fait. Faut t'informer avant. Faut t'informer. Ah non, pas de ban par contre. Après, ça va, on a le droit de pas avoir vérifié, de pas avoir fait de recherche avant d'affirmer des choses, quoi. Hier, je me suis donc défilé devant ce conflit en parlant pendant 3 heures. Bon, et si on commençait d'ailleurs ? Donc on va en reparler encore longuement, comme hier soir, voilà, et ça me semble nécessaire. En vrai, MMG s'est trompé et corrige, donc c'est toujours 9 membres au sein de l'ARCOM. J'avais dit un peu au pif, donc j'avais, bon, ok, c'est 9, pas de souci. En vrai, je pourrais l'éviter. C'est anxiogène, c'est triste, c'est dramatique. Hein, je pourrais passer une soirée cool... À me regarder Netflix ou à passer du temps un peu avec la famille, mais ça me semble tellement important comme information, tellement essentiel d'en parler, Voilà, de vous exposer ce qu'en disent les médias, de vous écouter, de faire des recherches, d'essayer de comprendre. Hier, on l'a fait pendant 3 heures. Que voilà, je préfère passer ce temps avec vous. Ça me semble juste impossible de faire autrement. Mais n'hésitez pas, pour ceux qui, notamment ceux qui pensent que j'évite le sujet, d'aller regarder le stream qu'on a fait hier soir pendant 3 heures. Quoi. Voilà. Allez, je lis encore un ou deux messages. Et puis, je vous fais un petit sommaire de ce dont on va parler ce soir, sachant qu'on ne va pas parler que du Proche-Orient, même si à 70-80%, ça va être le sujet. Je vous ai aussi mis des sujets, d'autres sujets d'actu de côté. Merci Alexandra, j'espère que tu vas bien. Couchy, c'est très gentil. C'est faux, mais c'est très gentil. Je remercie Poloca90 à l'instant pour ce 22e mois d'abonnement. Allez, un ou deux messages et on y va. Pourquoi pas ? Je connais pas trop le sujet. Il y a ni Rarori et Robinch qui disent que tu penses que tu feras un jour une émission sur un ou plusieurs jeux vidéo mobiles en invitant des joueurs mobiles. J'avoue, je connais pas très très bien le sujet. C'est pas beaucoup ce dont me parlent les gens avec qui je traîne. Mais effectivement, quelqu'un m'a fait la remarque derrière et je pense que c'est une question intéressante. Faut que je la creuse. Bien sûr, David, que je vois tes messages. Bien sûr que je vois tes messages, David. Alors, Leit, on va revenir sur... Il y a Leit qui écrit « Je ne m'y connais pas trop sur la guerre en Israël ». Sache que c'est un sujet éminemment complexe. Hein. Tu n'es pas seul, mais vis-à-vis de l'histoire, Israël est plutôt en tort, point d'interrogation. Non, ils ont imposé leur territoire dans leur territoire dans la Palestine. Alors, on a longuement évoqué ce sujet hier. Peut-être qu'on va... en même temps, comme c'est au cœur de cette actualité, peut-être qu'on va devoir le refaire. Je pense que la réponse à ta question se trouve dans plusieurs articles qu'on va évoquer. Voilà, reste avec nous, sinon tu verras, c'est vraiment au cœur du stream qu'on a fait hier soir sur cette question. Tu l'as en replay sur ma chaîne Twitch si tu es abonné, ou tu l'as en replay gratuitement sur ma chaîne YouTube. Mais on va en reparler, on va répondre à ta question parce qu'elle est essentielle, la question des responsabilités. À qui la faute? Bien sûr qu'on va en parler, bien sûr. On y va ? Un petit sommaire ? Jellyfish, oula, ambiance houleuse ici. Non, pas du tout. Je pense que Jellyfish, tu n'es pas habitué. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas... Même si j'ai beaucoup de respect pour l'univers des Pokémon, parce que ça m'intéresse énormément, ce n'est pas un stream sur l'univers des Pokémon, c'est un stream d'actualité. On ne parle que de choses qui fâchent. On ne parle que de choses qui divisent les gens. On ne parle que de ce qui fait actualité, des crises, les drames, pour essayer de les comprendre, pour essayer peut-être un jour de les résoudre en tant que citoyen. Donc on ne parle que de choses dures, donc ça crée des débats qui sont un petit peu enflammés. Hein, c'est pas, tiens, est-ce que je choisis Salamèche ou est-ce que je choisis Pikachu ? Donc ça crée des tensions et donc ça crée un chat qui est un petit peu, voilà, qui s'oppose, qui oppose des arguments. Mais on a créé un cadre ici qui est un cadre que je trouve assez vertueux, où malgré les oppositions, les différences de point de vue, les divisions, eh bien on arrive à en discuter ensemble de façon civilisée, quoi. Donc c'est pas un chat enflammé, c'est juste un chat de gens qui s'intéressent un peu à l'actualité, qui sont pas forcément d'accord entre eux. Ma communauté... Alors, je me pense mon d'ailleurs, ma communauté. Dans les gens qui me rejoignent pour parler d'actualité, il y a des gens qui sont proches de mes valeurs. Il y a des gens qui en sont très éloignés et ils le savent et ça me va. Du moment que c'est correctement exprimé. Moi, ne parler... merci beaucoup pour ton pardon, Manhattan, c'est très gentil. Du moment que c'est correctement exprimé, voilà. Moi, je préfère parler... parler avec des gens qui sont d'accord avec vous, ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que vous restez dans votre petite bulle et vous finissez par vous dire, puisque tout le monde pense comme moi, c'est donc que j'ai raison. Et c'est extrêmement dangereux, hein, ce genre de bulle. Voilà. Moi, j'aime bien parler avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, à partir du moment où on arrive à en discuter de façon apaisée. Quoi. Donc le chat, parfois, il est un petit peu animé, mais on a réussi à définir un espace que je trouve plutôt intéressant. Quoi. Par exemple, le débat chocolatine, pain au chocolat, non, ça c'est trop violent. Ça c'est trop, ça je fais pas, c'est trop. Non, ça c'est trop, ça je fais pas. Bon, on va y aller, hein. Flea regarde ce stream en jouant à WoW, World of Warcraft, et tu as bien raison. Et tu as bien raison. Merci Sakura Kino. Merci beaucoup pour ce soutien. Merci Place du Paradis pour ce 20e mois d'abonnement. Pomme de terre rôtie, je te lis. Là, je comprends. Les pommes de terre rôties qui écrit « Personnellement, ce qui me choque dans cette affaire, en plus des horreurs qui se déroulent là-bas, c'est le fait que les gens, politiques, journalistes, influenceurs, se sentent obligés de prendre parti et de condamner uniquement un camp ou n'apporter son soutien qu'aux victimes d'un seul des deux pays, alors qu'on devrait condamner toutes les horreurs et aider toutes les victimes, car il n'y a pas un camp qui soit plus coupable que d'autres et tous deux ont leur part de responsabilité. » Je comprends ce que tu veux dire, mais on va en parler ce soir. Quiche 54, oui, je vois qui tu es et je vois qui est ton papa, donc je te dis bonjour et je dis bonjour aussi à ton papa. Bonjour à tous les deux. Bon, un petit sommaire, les amis, merci beaucoup. Quiche 54, j'avais pas vu ton sommaire, merci beaucoup. Et Celtics Monkey, merci beaucoup aussi pour le Prime. Un petit sommaire, je vous dis de quoi on parle ce matin, ça vous va? Allez, c'est parti pour un yes, baby.
Yes!
Ça, c'est un petit yes, on va essayer de trouver mieux.
Yeah, baby.
Ok, il est là, le yes baby. C'est parti, hop. Alors, puis en prime, on ira voir si on a le temps. Deux articles qui hier soir, j'ai pas eu le temps de vous lire, sur d'autres faits d'actualité, histoire de parler d'autre chose. D'ailleurs, un moment pour s'aérer un petit peu. On parlera aussi de jeux vidéo. Voici la une du Parisien. J'ai dit ce matin, bon, c'est une petite déformation professionnelle. Ceci est bien un live et pas un stream enregistré. Et vous savez que je stream tellement souvent le matin. Voilà la une du Parisien de ce matin, donc de ce matin tout à l'heure. Ces visages qui nous hantent, et vous avez deviné que ici on a des familles, des photos de familles israéliennes, de jeunes, notamment, vous savez, ces jeunes qui participaient à cette grande soirée, à cette grande rêve. En extérieur, non loin de la bande de Gaza, ces visages qui nous hantent, des familles entières décimées par le Hamas. On lira cet article sur ces destins fauchés par le terrorisme. Il n'y a pas de débat là-dessus, il n'y a pas de débat. Tout le monde s'accorde à dire que ce qu'a fait le Hamas, c'est un acte terroriste. Voilà, aller frapper des civils, des hommes, des femmes, des enfants, c'est un acte terroriste. Il ne m'est pas étranger le fait que les frappes israéliennes aujourd'hui répondant à ces actions du Hamas vont aussi, touchent même aussi actuellement, des civils, des hommes, des femmes et des enfants qui ne sont pas des combattants du Hamas. Voilà. L'un n'exclut pas l'autre. On va en parler. Donc le Parisien parle de ses destins fauchés par le terrorisme. Israël est entré en guerre. On va se pencher justement sur ce que Israël est en train de faire, ce que Israël est en train de préparer précisément l'armée israélienne, Tsahal, voilà, pour en termes de réplique. À Gaza, les civils désemparés, puisque vos journaux parlent aussi de ce qui se passe actuellement dans la bande de Gaza. La spirale infernale. Là justement, c'est une photo de la bande de Gaza bombardée en une de Libération ce matin. Les habitants de l'enclave palestinienne craignent un blocus total. Ça y est, il est fait le blocus. Il est décidé et d'autres frappent en représailles à l'attaque massive du Hamas. On verra les bilans. On ira voir, je pense, Le Monde qui est sorti cet après-midi pour les derniers bilans qui ne cessent de s'alourdir des deux côtés. Des deux côtés. Alors on va essayer de mettre du sens aussi. On va pas seulement compter les morts. On va pas seulement évoquer l'émotion, la tristesse de tout cela, mais essayer de comprendre aussi, de mettre du sens sur tout ça. Par exemple, en revenant sur l'histoire du Hamas, qu'est-ce que c'est le Hamas, de l'intifada de 1987, la première révolte palestinienne, jusqu'à ce 7 octobre 2023. Ça, c'est Libération qui nous le propose. Le siège avant l'offensive à Gaza, c'est aussi la une du Figaro qui nous parle du cimetière des illusions. Hier, déjà, on a vu pas mal d'articles qui nous disaient que... qui nous rappelait qu'à une époque, dans la région, moi j'ai connu cette époque, après les accords d'Oslo, on a cru, on a rêvé à un processus de paix. À un processus de paix, une discussion entre les deux parties, entre Israël et les Palestiniens, pour arriver à une solution. Voilà. Et puis ce processus de paix, aujourd'hui, le constat, c'est qu'il est mort, c'est qu'il est enterré. Voilà. Il n'existe plus. Voilà. Il y a à court terme, il y a à moyen terme, aucun espoir d'une paix entre les deux camps. Voilà, on en est aujourd'hui. Le Figaro nous en reparlera ce soir. Un papier intéressant dans Les Échos sur la position des pays arabes. C'est intéressant. Que pensent les pays arabes dont certains, nombreux, ont été en guerre avec Israël, ce n'est plus le cas aujourd'hui. La position des pays arabes vis-à-vis du Hamas, l'embarras des pays arabes majoritairement hostiles au Hamas, c'est intéressant, je trouve, comme constat. Ce sera à lire dans Les Échos. Gros Bob du 31, Floby One, merci pour, et Delphi 35, merci respectivement pour vos 20e, 12e et 14e mois d'abonnement. Donc là, on aura d'autres articles, mais sur le Proche-Orient, je suis aussi allé voir Le Monde de cet après-midi, Le Monde de ce soir. Après la terreur, la riposte d'Israël, c'est la une du Monde. Israël organise le siège de Gaza et masse ses troupes à la frontière. C'est l'article le plus récent qu'on pourra trouver, un article qui évoque le bilan, je crois. Voilà, le dernier bilan des attaques du Hamas, c'est 900 morts. 900 morts côté Israël. Du côté palestinien, le nombre de victimes depuis le début de la campagne des frappes israéliennes, c'est 700 morts. On serait aujourd'hui à 900 morts côté Israël et 700 côté palestinien. Je dis bien pour l'instant, pour l'instant. On se penchera sur cet article qui est le plus récent, à mon avis, sur la situation. Voilà. Et puis, je vous montre d'autres articles, même si l'essentiel de ce stream sera consacré à la situation au Proche-Orient. Je vous ai mis de côté aussi un article sur la réforme du RSA qui arrive à l'Assemblée et qui fait débat. La parole à, ça n'est pas n'importe qui, hein, comment s'appelle-t-elle, la défenseure des droits. Hein, c'est un poste, la défenseur des droits qui s'appelle Claire Hédon, qui dénonce cette réforme du RSA, le revenu vous savez, minimum d'activité là. Claire Hédon qui dit que cette réforme risque d'appauvrir les plus pauvres. Claire Hédon qui affirme que dans un pays comme la France, cette réforme du RSA n'est pas à faire, quoi. Je vous lirai aussi cet article dans le Figaro sur un avis de tempête sur le secteur du jeu vidéo. Alors le secteur du jeu vidéo qui est un jeu globalement un secteur qui se porte bien économiquement parlant, mais avec des boîtes, des studios qui licencient énormément en ce moment. Alors pourquoi ces plans sociaux assez importants dans l'univers du jeu vidéo? Eh bien on le verra avec cet article du Figaro. L'article que j'ai vu dans Le Monde aussi tout à l'heure là, outre l'actualité au Proche-Orient, je le trouve assez passionnant. C'est une enquête annuelle, c'est la 11e vague d'une étude qui s'appelle Fracture française, réalisée par Ipsos Soprasteria pour Le Monde et également la fondation Jean Jaurès, le CEVIPOF et l'Institut Montaigne, et c'est une enquête qui constate l'humeur, l'état d'esprit des Français. Bon, ça n'est qu'un sondage, hein. Cet état d'esprit, c'est la colère, c'est l'inquiétude, c'est le déclinisme. Une très grande majorité de Français sont persuadés que notre pays est en déclin, et ça n'est pas tout d'ailleurs, que notre pays est en déclin. Il y a un sentiment de colère qui monte, et ce que dit aussi cette enquête, c'est que de plus en plus de Français sont persuadés que la solution va venir de l'élection d'une représentante du Rassemblement National, Marine Le Pen par exemple, à la prochaine présidentielle. De plus en plus de Français le souhaitent, de moins en moins de Français en ont peur, voilà, et c'est aussi un des enseignements de cette enquête, voilà. Et puis, si on a le temps, il y a aussi deux articles que j'ai pas eu le temps de vous lire hier, qui nous changeront un petit peu les idées, sur, avec un petit peu de retard, le nouveau titre de champion du monde de Verstappen en Formule 1, voilà, un très bel article sur le caractère, sur le parcours de Verstappen, voilà, ça nous changera un petit peu. Et puis ça, je trouve ça assez passionnant. Est-ce que demain, je serai remplacé? Et d'une manière générale, les présentateurs, les speakers, les speakerines remplacés par des IA, vous avez aujourd'hui dans plusieurs pays à travers le monde des présentatrices, surtout des femmes, c'est étonnant d'ailleurs pourquoi, qui présentent les infos et qui sont des IA. Voilà, c'est assez étonnant. Donc la question n'est pas de savoir si ça va arriver un jour, ça a commencé. Voilà. Est-ce que ça va arriver un jour en France? Est-ce qu'un jour vous aurez pour présenter votre JT, est-ce que vous aurez pour présenter votre jeu préféré, genre question pour un champion par exemple, au hasard, c'est juste parce que c'est le meilleur jeu du monde, ou alors pour préparer, présenter votre stream, eh bien, est-ce que vous aurez demain des IA? J'en riais il y a quelques temps. Quand je vois ce qui est en cours aujourd'hui, je commence à quand même poser la question. Voilà. Donc, voilà, c'est histoire de se changer les idées, on verra un petit peu toutes les actualités. Qu'est-ce que vous pensez de ce petit sommaire? Voilà. Et sinon, je vous donne rendez-vous vendredi pour l'hebdo Etienne pour revenir sur l'actualité de la semaine avec 4 invités, sachant que ce soir, après le stream, il faut que je trouve mon quatrième, je suis un petit peu en retard. Ça me plaît, dimanche, avec un invité que je vais vous révéler bientôt, d'ici 2-3 jours, avec un combo de jeux. On va jouer à plusieurs jeux. Voilà. Et puis, lundi prochain, le président de l'ARCOM, 20h, sur ma chaîne, on va se régaler. Quoi. Voilà. Du boulot, du boulot, du boulot, du boulot. Voilà. Bon. Ça vous va comme petit sommaire? Ça vous va, ça vous va? Il y a Espafre qui dit, mais qu'est-ce qui nous dit que vous n'êtes pas déjà une IA? Rien. Rien en fait. Voilà. Rien du tout. Olistou, merci pour ton message. Je comprends. Merci. Olistou qui écrit une immense pensée pour tous ces innocents, quel que soit leur camp. Qui n'ont rien demandé à personne et qui souffrent. Quelle tristesse. Le conflit m'interpelle depuis longtemps. Je sais qu'il existe de chaque côté des personnes de paix. C'est vrai. Mais c'est tellement dur de voir ce qui se passe actuellement. Merci Olistou pour ton message, pour ton soutien. Sakadal, merci pour le 2e mois d'abonnement. Pierre, merci pour ton Prime. Itarbel, merci pour le 2e mois d'abonnement. Océanou, merci encore pour le 14e. Alors, je ne l'ai pas vu, mais quelqu'un me dit, Delphine, que jeudi, l'ami Jean Massier vous propose un backseat, son émission du jeudi soir spécial Israël. Ça va être intéressant. C'est clair que ça va être intéressant. Je n'élude aucune question et celle-ci, elle est pertinente. Il y a Chivet qui dit, qui nous demande, toi qui n'es pas un anonyme de Twitter, merci Armand Momo, je vais te remercier dans un instant. Est-ce que oui ou non on peut affirmer qu'il y a eu des décapitations, hein? J'ai vu passer ces informations sur les réseaux, j'ai vu des journalistes les rapporter, j'ai vu des vidéos de journalistes américains qui me semblaient des journalistes rigoureux parler de ces Israéliens à qui des militants du Hamas avaient coupé la tête. J'ai vu ces infos. On ira creuser un peu pour voir quel crédit on peut apporter à ces informations, pour voir s'il s'agit de fake news, de possibles fake news, ou si ces atrocités ont été commises ou pas. On va faire cette recherche. On va pas se cacher. On va pas passer à côté. Merci beaucoup Arnaud Momo pour les 5 abonnements que tu viens d'offrir à la commu. Merci beaucoup de ton soutien. Merci. Ah, c'est François Hollande qui revient? D'accord. Ah, bah, excite, ok. Merci Sigrid, merci beaucoup. Vous êtes super, merci pour le soutien. Alors, c'est génial. Hugo, merci, t'es formidable. Je vais te remercier dans un instant. C'est génial parce que, vous voyez, quand je dis la difficulté, de vérifier, c'est d'aller chercher des sources fiables et parfois de faire le constat que on n'est pas sûr et qu'il faut parfois patienter quelques heures, quelques jours pour être sûr plutôt que raconter n'importe quoi. J'ai Quentin qui a écrit dans le chat, l'armée israélienne a annoncé n'avoir aucune info sur d'éventuelles décapitations. Juste en dessous, j'ai Guts qui dit, le porte-parole de Tsahal, Tsahal c'est l'armée israélienne, l'a confirmé sur LCI. Donc vous avez deux infos de chat qui disent rigoureusement l'inverse. Voilà. C'est toute la difficulté de s'informer, voilà, de vérifier les infos. Je pense que vous parlez tous les deux de bonne foi, mais la question c'est quelle est la qualité des informations que vous avez trouvées. Voilà. Est-ce que des Israéliens, dit-on même peut-être des bébés, ont été décapités? Je ne le sais pas. On va faire des recherches et on va voir si on trouve des sources dont on peut se dire qu'elles sont fiables. Je remercie Hugo Enneblaster qui vient d'offrir 10 abonnements à la communauté. Merci de ton soutien. Allez, on va y aller, hein. Je vais vous lire tout ça. Merci beaucoup, Atlantis. C'est un peu l'idée, ouais. Merci, Atlantis, c'est adorable. Merci, Atlantis, ton message me touche. Allez, on y va. C'est go. Allez, on commence avec Le Parisien. Je vais vous lire différents articles. On prend le temps. Voilà, je vous lis en même temps. Je m'honorerai aussi de vos réactions. Mais de temps en temps, voilà, je suis lancé dans un article pour vous donner quelques informations. La une du Parisien ce matin, qui est évidemment très... Donc je dis ce matin parce que c'est celle de ce matin, qui est très émouvante avec tous ces visages. On est du côté là des victimes israéliennes, mais sachez que vos journaux, les Parisiens, le Figaro, les Échos, le Monde, etc., nous parlent des victimes des deux camps. Hein. Ne croyez pas qu'on lit ici des journaux qui ne sont que pro-israéliens ou que pro-palestiniens. Vous allez voir, tout simplement, vous allez vous en rendre compte. Ces visages qui nous hantent, là on est du côté des familles, parfois des familles entières qui ont été décimées par les terroristes du Hamas, puisqu'il s'agit de terroristes ici, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun débat là-dessus, voilà. Notamment les jeunes, vous savez, qui étaient à la fête là. J'ai lu quelque part que sur les 900 victimes côté israélien, il y avait de 200 à 300 uniquement pour la fameuse fête, là vous savez, tous les jeunes qui étaient réunis dans la rave. Les voix disparues de la paix. Article édito d'Olivier Auguste qui donne son avis dans Le Parisien. Ici, c'est la colonne de gauche. Le mot paix, le terme, je vous le disais tout à l'heure, en fait, a disparu du vocabulaire des protagonistes de la région depuis longtemps. Je vous le disais, moi, à une époque, quand j'étais jeune journaliste, on parlait beaucoup du processus de paix. On en parlait quasiment tous les jours. Le conflit israélo-palestinien, c'était un truc qui, à une époque, faisait la une des médias tout le temps. Quand il y avait des violences et quand il y avait des espoirs aussi. Et il y a eu un processus de paix. Le processus de paix, aujourd'hui, il est mort. On ne parle plus de paix aujourd'hui au Proche-Orient. Plus personne n'y croit. Ce journaliste a raison. Pourtant, il y a 30 ans, tout juste, nous rappelle donc ce journaliste, la signature des accords d'Oslo. Entre un Israélien, Yitzhak Rabin, et un Palestinien, Yasser Arafat, avait suscité un prodigieux espoir, tout ça sous la houlette des États-Unis d'ailleurs. Il a été bien fugace cet espoir, même s'il a existé. L'autorité palestinienne, qui a été instaurée d'ailleurs par cet accord d'Oslo, n'a brillé que par son incompétence, c'est vrai, par sa corruption, c'est vrai. S'y est ajouté le refus de Mahmoud Abbas, le successeur d'Arafat, de se soumettre à des élections qui étaient pourtant prévues, à l'issue de son mandat, c'est vrai, la porte était alors ouverte à une prise de pouvoir à Gaza par les plus radicaux, comprenez par les islamistes du Hamas, qui n'ont jamais eu d'autre moyen que la violence, ni d'autre but que la disparition d'Israël, puisque dans les statuts du Hamas, il y a la négation totale de l'État d'Israël. Dans les statuts du Hamas, hein, c'est écrit noir sur blanc, Israël doit être détruite. Côté israélien, Yitzhak Rabin a été assassiné fin 95 par un extrémiste juif. Benjamin Netanyahou, qui est actuellement au pouvoir en Israël, et la droite, au pouvoir la majorité du temps d'ailleurs depuis cette époque, n'ont cessé d'encourager la création de colonies en Cisjordanie, illégales sur le plan du droit international, et autant d'huile sur le feu remise en permanence par ces Israéliens. Voilà. Salut Camille qui a converti son colloque à ses streams. Salut au colloque. La moitié de la population palestinienne a moins de 20 ans. La moitié de la population israélienne a moins de 30 ans. Et ces générations-là, ces jeunes palestiniens et israéliens, n'ont pour ainsi dire jamais entendu leur leader parler de dialogue, de négociation, de cohabitation, de paix. Elles ont grandi, ces générations, au mieux dans la méfiance, au pire dans la haine des jeunes du même âge qui leur font face. Comment cela pourrait-il constituer une base pour la paix? Vous ne trouverez pas dans la presse en ce moment de journalistes éditorialistes optimistes quant à la situation. Pépin Camille, merci pour l'abonnement offert à la commune. Alors Le Parisien, je vous le disais, se penche sur ses destins fauchés par le terrorisme. Depuis l'offensive du Hamas, samedi, les familles pleurent leurs disparus. Certaines attendent, mues par l'espoir de retrouver leurs proches enlevés, sans doute détenus à Gaza. Il y a les victimes, il y a les otages. On serait, d'après Le Monde, à un bilan de 900 morts, 900 victimes côté israélien. Le Parisien, Israël est entré en guerre, puisque maintenant, c'est la contre-offensive israélienne qui a commencer, qui n'est qu'au tout début, qui va peut-être durer très longtemps, qui va peut-être faire énormément de victimes, c'est pas peut-être, c'est même quasiment sûr. Après l'attaque meurtrière du Hamas samedi, Israël prépare donc sa riposte. Intervention militaire dans la bande de Gaza, repère du groupe armé palestinien, reste le scénario le plus probable. Après l'opération déluge d'Al-Aqsa du Hamas, voici venu le temps de la riposte. Glaive de fer, c'est l'opération d'Israël. Meurtri par l'attaque éclair de son ennemi samedi, Israël imagine la meilleure manière de frapper. Chaque zone dans laquelle le Hamas opère sera une ruine, a dit Netanyahou, le premier ministre israélien. Tsahal, donc Tsahal c'est l'armée israélienne, a déjà commencé la première phase de la riposte en bombardant intensément l'enclave ce week-end. Donc on serait à 600-700 morts côté palestinien uniquement dans les bombardements avant même l'offensive terrestre. En bombardant intensément l'enclave ce week-end dans le but de réduire en ruine les caches du groupe armé palestinien classé terroriste notamment par l'Union Européenne. La deuxième phase du plan a démarré ce lundi. Le ministre de la Défense israélien a annoncé que l'armée allait imposer un siège complet du territoire en coupant son alimentation en eau, en électricité et en gaz. Il se murmure maintenant qu'une offensive terrestre dans l'enclave se prépare. Déjà les conditions de vie dans la bande de Gaza, hein, où il y a plus de, je crois, 2,5 millions d'habitants, on est sur une des densités de population les plus importantes au monde. On parle d'une prison à ciel ouvert où les conditions de vie sont extrêmement difficiles. L'alimentation en eau a été coupée, l'alimentation en électricité a été coupée, l'alimentation en gaz a été coupée. La plupart des experts estiment qu'une intervention dans la bande de Gaza n'est plus maintenant qu'une question de jours, voire d'heures. Israël ne va pas se contenter, cette fois, d'un bombardement comme lors des précédentes escalades. Ils veulent décapiter le Hamas, liquider tous les chefs militaires et politiques. Ça va coûter très cher. Netanyahou a prévenu, il y aura de nombreuses pertes supplémentaires, explique un chercheur de l'IRIS, spécialiste du Moyen-Orient, aux Parisiens, qui rappelle que la dernière opération terrestre menée par l'État hébreu en 2014 dans la bande de Gaza s'était soldée par un très lourd bilan humain. En 19 jours, 2251 Palestiniens, dont 1462 civils et 67 soldats israéliens avaient perdu la vie dans les combats, selon les Nations Unies. Le Premier ministre israélien Netanyahou a donc l'intention de laver l'affront de samedi. Ne pas le faire serait dévastateur pour la capacité d'Israël à dissuader non seulement le Hamas, mais aussi ses ennemis dans toute la région, notamment le Hezbollah libanais et l'Iran, qui soutiennent le Hamas. Ça, on sait que en gros, l'offensive du Hamas, là, elle a été préparée. On commence à avoir de plus en plus d'éléments là-dessus, préparés avec l'aide de l'Iran. C'est ce qu'explique un ancien commandant adjoint de la division de l'armée israélienne. On va se pencher un petit peu sur la situation à Gaza aussi, je vous lis. Bon, c'est un débat un peu animé. Je remercie Nemodo, d'ailleurs, hier, je ne vous ai même pas salué, alors que vous faites un travail... juste un travail parfait. Clamakin, Francis, Julo18, MMG7F et la mini iPod, bien sûr, merci. Ouais, force au modo ce soir. Force au modo tout le temps, hein. Pas que ce soir, hein. À Gaza, les civils désemparés, c'est vraiment que le début. Dramatique, catastrophique, gravissime, les mots varient peu dans la bouche des interlocuteurs pour décrire la situation actuellement dans la bande de Gaza. Soumise à d'intenses bombardements de l'armée israélienne en représailles à l'attaque sanglante du Hamas. Selon le bilan fourni par le ministère de la Santé palestinien, l'opération Glaive de fer, donc israélienne, avait déjà fait ce lundi 687 morts, dont 140 enfants et puis 3700 blessés. Les 2,3 millions d'habitants, je ne sais plus combien j'ai dit tout à l'heure, hein, 2,5 millions, je crois, les 2,3 millions d'habitants qui s'entassent dans cette langue de terre soumise au blocus depuis 2007 redoutent les conséquences humanitaires, alors que le ministre israélien de la Défense a annoncé ce lundi le siège complet de la bande de Gaza. Il y a les victimes qui vont être frappées par les bombardements. Il y a les victimes qui demain vont être frappées sans doute par l'armée israélienne qui va rentrer dans la bande de Gaza. Et il y a aussi les victimes du blocus, bien sûr. Hein. Libération met à la une d'ailleurs une image de la bande de Gaza. La spirale infernale, là, c'est reparti au Proche-Orient. Les habitants de l'enclave palestinienne craignent un blocus total et d'autres frappes en représailles. On vient de l'évoquer. Qu'écrit Libération ? Est-ce que ça rajoute quelque chose ? Non, c'est le bilan, mais on ira voir celui du Monde qui est le dernier. Voilà. L'opération dont je vous parlais, l'opération terrestre d'Israël dans la bande de Gaza, elle ne va pas durer quelques jours. Selon Libération, elle pourrait durer plusieurs mois. Plusieurs mois. Les pénuries de fuel à l'approche de l'hiver qui peut être rude dans la bande de Gaza sont redoutées pour le chauffage, mais aussi de façon plus urgente pour alimenter des nombreux générateurs privés qui équipent certains logements, mais aussi les hôpitaux. Un article dans Libération, un éclairage sur l'histoire du Hamas maintenant, puisqu'on va essayer de mettre un petit peu de sang sur tout ça pour comprendre comment on en est arrivé là. Le Hamas, qui est né en 1987, donc avec la première intifada, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au 7 octobre 2023, le jour de l'attentat. Qu'est-ce que le Hamas ? Première question. Le parti du Hamas, ou mouvement de résistance islamique, a été fondée donc en 1987 lors de la première intifada, la première révolte palestinienne, hein, le soulèvement palestinien contre l'occupation israélienne de la Cisjordanie aussi à l'époque et de la bande de Gaza, et donc naît comme un bras politique des frères musulmans de Palestine. Depuis sa victoire, le Hamas, aux élections législatives de 2007, le Hamas gouverne en fait cette bande de Gaza, plus de 2 millions de personnes, une enclave fermée de 365 km². Sa prise de pouvoir de l'enclave a été rejetée par la communauté internationale, provoquant une division avec l'autorité palestinienne, hein, anciennement dirigée par Arafat, qui est installée en Cisjordanie, précisément à Ramallah. Le Hamas est surtout connu pour sa lutte armée contre l'État hébreu, qu'il a toujours refusé de reconnaître. Hein. Le Hamas nie l'existence de l'État hébreu. L'État hébreu doit être supprimé, éradiqué. Dans sa charte rédigée en 88, le Hamas appelle à la destruction d'Israël et à l'instauration d'un État islamique dans tout ce qui était autrefois la Palestine sous mandat britannique. Bon, quand certains se demandent pourquoi Israël cherche à taper le Hamas, bon, le Hamas, c'est un mouvement qui, depuis le début, veut supprimer, éradiquer, détruire Israël. Constitué d'une branche politique et d'un bras armé qu'on appelle les brigades Al-Qassam, il mène régulièrement des attaques contre les soldats, contre les civils israéliens. Le gouvernement américain estime que le mouvement, désigné comme organisation terroriste par les États-Unis, par l'Union européenne, par le Canada, par le Japon, compte entre 20 000 et 25 000 membres. Pourquoi le PUF 91 nous demande pourquoi le Hamas veut détruire Israël. Bon, d'une parenthèse, même si on en a parlé pendant une heure hier, vous pourrez voir le replay, je retourne aux racines du conflit en simplifiant à mort. Au fil des siècles, les Juifs ont été victimes d'antisémitisme, de violence, de pogroms, voilà, avec une apogée de cette violence contre le peuple hébreu, les Juifs, pendant la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, avec l'Holocauste, voilà, avec les millions de morts. Il est décidé au lendemain de cette Seconde Guerre mondiale, par la communauté internationale, par les Nations Unies, par l'ONU, de donner un État, un pays, aux Juifs pour qu'ils soient chez eux, pour qu'ils puissent être protégés de cet antisémitisme. Voilà. On est en gros en 1948. C'est l'aboutissement d'un combat politique qu'on appelle le sionisme. Le sionisme, c'est la volonté souhaitée par certains Juifs, pas par tous d'ailleurs, de créer un État, un pays où les Juifs du monde entier puissent se retrouver et vivre en sécurité. Le sionisme, c'est ça. Après la Seconde Guerre mondiale, donc la communauté internationale décide de créer un pays, et ils décident de le faire dans ce que les Juifs considèrent comme le berceau, leur berceau historique, hein, qui est la Palestine, voilà, hein, dans la Bible, tout ça, la Palestine. Sauf qu'en Palestine, y a des gens qui y vivent. Et ce sont des Arabes et ce sont des Palestiniens. Donc on crée, je vous le fais très schématiquement, hein, on crée un pays et là il y a des gens. Donc en fait, la création de l'État d'Israël commence par en fait virer des gens en fait, littéralement quoi, et déplacer des populations qui sont des populations arabes, qui sont des populations palestiniennes. De là, ça provoque la colère des États arabes. Il y a Sami qui dit c'est complètement faux ce que tu dis, argumente, il n'y a aucun souci. Moi, je suis prêt à répondre à tes questions. C'est juste de l'histoire. Hein. Complètement faux, ça veut rien dire. Il faut que tu développes, tu peux écrire 20 lignes, ce sera lu, il n'y a aucun problème. Ça provoque la colère des pays arabes de la région à partir de 1948, et il y a plusieurs guerres israélo-arabes qui sont toutes gagnées par Israël avec le soutien des États-Unis. Et ce qui se passe, c'est que les limites de l'État d'Israël et de ce qui devait être un État arabe de la Palestine, un État palestinien, en fait, ces limites vont bouger à chaque défaite des pays arabes contre Israël. À chaque fois, Israël va en profiter en fait, pour reprendre un petit peu de terrain puisqu'ils ont gagné le conflit, sans doute avec l'argument de vouloir sécuriser ses frontières, quoi. Et donc ça veut dire encore des déplacements et encore des Palestiniens chassés, et puis la création de donc la Cisjordanie d'un côté, la bande de Gaza, voilà. Bon, alors je vais très 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 vite. Oui, je vais pas revenir à l'Empire ottoman et l'Angleterre parce que ça va être trop long, voilà. Mais en gros, vous avez la source du conflit et du problème, pour faire vraiment court et très simplifié. Vous avez une vidéo d'Hugo Décrypte en 16 minutes sur le sujet qu'on a regardé ensemble hier soir, qui est extrêmement clair, qui là encore résume, hein. Un problème aussi complexe en 16 minutes, c'est résumé. Moi, je vous le résume en 30 secondes. Mais vous avez bien sûr des articles beaucoup plus profonds que vous pourrez trouver dans des bouquins ou sur Internet pour vraiment, si vous souhaitez comprendre le sujet. Et plus vous allez lire et plus vous allez vous rendre compte de la complexité du sujet, vous avez deux légitimités. Vous avez deux peuples avec deux légitimités. Deux légitimités qui à un moment s'opposent. Vous avez les juifs qui à un moment veulent vivre en sécurité dans un pays, dans une région qu'ils considèrent comme leur berceau. Et vous avez de l'autre des Palestiniens et des Arabes qui disent qu'ils étaient installés là et on les a chassés, quoi. Voilà. Bon, en gros, je simplifie à mort. Et deux camps qui sont persuadés d'avoir raison. Puis alors après, il y a tout ce qui suit. Notamment la colonisation des territoires palestiniens par les colons juifs, par les plus extrémistes, etc. Voilà. Qui crée d'autres tensions. Je simplifie vraiment beaucoup. Hein. Je ne suis pas historien. Je répondais à une question dans le chat. On continue. Lionel P2, merci beaucoup pour le 16e mois d'abonnement. Alors, donc le Hamas, on en a parlé. Qu'est-ce qui a motivé l'attaque ? Revenons à l'actualité. Pourquoi cette attaque du Hamas, sachant que le Hamas savait que derrière il y aurait une réplique militaire extrêmement violente de la part de l'armée israélienne. Le porte-parole du Hamas d'abord a justifié publiquement l'offensive par les énormes difficultés auxquelles les Palestiniens font face depuis des décennies et dont les responsables sont, selon eux, Israël. Le Conseil de sécurité de l'ONU alertait en septembre sur l'expansion continue des colonies de peuplement, ce dont je vous parlais, la détérioration de la situation économique et humanitaire dans les territoires palestiniens occupés, dont je vous parlais, la population de la bande de Gaza qui vit sous blocus israélien depuis 2027. En prenant une centaine d'Israéliens en otage, le Hamas espère sans doute obtenir en échange la libération des quelques 4500 détenus palestiniens incarcérés pour les activités de terrorisme dans les prisons israéliennes. Après, reste à voir si Israël va céder à ce chantage, c'est pas sûr. Qui sont les alliés du Hamas aujourd'hui? Est-ce que le Hamas est seul? Non. Le Hamas appartient à ce qui se revendique comme le front de la résistance, comprenant l'Iran, la Syrie, le groupe islamiste chiite Hezbollah au Liban, tous opposés à la politique américaine au Moyen-Orient. Le président iranien a d'ailleurs été l'un des premiers dirigeants à saluer cette attaque contre Israël, affirmant que son pays soutient la légitime défense de la nation palestinienne et que le régime sioniste et ses partisans doivent être tenus pour responsables dans cette affaire. Une enquête publiée dans le quotidien américain Wall Street Journal a affirmé dimanche que les officiers du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran avaient travaillé avec le Hamas depuis le mois d'août pour planifier les incursions aériennes, terrestres et maritimes du 7 octobre. Je vais vous lire parce que je vois plein de commentaires intéressants. Je voulais à la fin de cet article. Allez, à vous maintenant. Alors, merci Spatil 69 pour le 3e mois d'abonnement. Alors, Garma 66, je ne sais pas comment répondre à ta question parce qu'elle est tellement compliquée, mais tu as raison de la poser. Germa nous dit, bonjour Samuel, tu dis qu'il n'y a pas de débat et que le Hamas doit être qualifié de terroriste, et c'est vrai. Mais pourquoi, selon toi, y a-t-il un débat pour qualifier le gouvernement d'Israël de terroriste au vu de leurs crimes ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais lire des articles qui nous disent clairement qu'Israël sait que dans l'offensive qui va être menée, là, les bombardements et l'organisation, l'offensive terrestre, il va y avoir beaucoup de morts civiles. Israël le sait. Il va y avoir beaucoup de morts civiles, des hommes, des femmes, des enfants, qui ne sont pas des militants du Hamas, qui vont être tués par Tsahal, par bombardement ou par opération terrestre. Et donc, Germain nous dit, mais est-ce que c'est pas du terrorisme ? Alors, en général, est-ce que les mots sont importants ? Ce type de crime, parce que ce sont des crimes, dans un conflit armé, c'est interdit. Hein. Il y a un droit de la guerre. Hein. Tu n'as pas le droit de tuer des civils. Ça s'appelle un crime de guerre, en fait. Voilà. Donc, ce dont nous parlons ici, tuer des civils, voilà, qui ne sont pas responsables de violences supposées, c'est un crime de guerre. Voilà. Comme c'est un État constitué, certains disent, alors on ne peut pas parler de terrorisme. Voilà. Alors moi, je pose la question. Est-ce que le fait que ce soit un État constitué et pas un groupuscule comme le Hamas, est-ce que ça interdit de dire que c'est du terrorisme ? Tout dépend de la définition du terrorisme. Voilà. On va essayer d'avancer sur cette question qui est essentielle, qui est difficile mais qui est essentielle, au travers des lectures qu'on va avoir ce soir. Mais je suis quand même interpellé par le fait qu'Israël semble reconnaître aujourd'hui qu'il va y avoir énormément de victimes civiles dans la bande de Gaza, et on est en mode, c'est comme ça. Ça pose question. Ça pose question. Je remonte un petit peu dans le chat. Donc je vois dans le chat des gens qui estiment que mon petit résumé un peu maladroit là de toute l'histoire du conflit israélo-palestinien est orienté. Et alors, pour certains, orienté trop pro-israélien, et pour certains, orienté trop pro-palestinien. Bon, je vous renvoie les uns aux autres. Si cette présentation semble trop pro-palestinienne à certains et trop pro-israélienne à d'autres, c'est qu'on est peut-être malgré tout pas loin de la vérité, quoi. Je sais ça. Puis Mousse me dit, évidemment Samuel, le Hamas place ses points stratégiques sur des cités civiles, c'est ce que dit effectivement Israël. Comment faire dans ce cas ? Et les otages pris par le Hamas, encore une fois, pour se protéger, ils utilisent toujours depuis des civils pour instrumentaliser leurs actions. Je connais les accusations d'Israël. Je vous lis. Hein. Merci Sakura Kino. C'est gentil de dire que tu passes une excellente soirée sur un sujet aussi compliqué. C'était très encourageant, merci à toi. Continuons à lire, vous allez voir, il y a des éléments intéressants qui, pour certains, je pense, vont répondre à certaines de vos questions. Parce que chacun a son libre arbitre, il y a Kiwoom qui dit « Mais Samuel, est-ce que tu sais comment expliquer que les avis en France sur ce sujet peuvent-ils diverger autant d'une personne à l'autre ? Tu fais allusion notamment aux positions de la France insoumise qui ont provoqué beaucoup de réactions. Pourquoi les propos de certains élus, pas tous, de LFI ont provoqué des réactions ? Parce que ces responsables de LFI ont refusé de parler d'actes terroristes à propos du Hamas. Tout simplement parce que leur lecture du conflit n'est pas la même. Voilà. Leur lecture du conflit n'est pas la même. De la même manière que dans le chat, je vois au moins deux, sinon plus, lectures de ce conflit, dans la classe politique, c'est la même chose en fait. Merci Ekoff pour le Prime. Merci Spatule 69 pour le troisième. Alors, Libération, on l'a lu. Je vous propose de passer au Figaro. Le cimetière des illusions, que dit cet édito de Philippe Gély ? Un édito, c'est un journaliste qui donne son avis, je vous le rappelle. Et là, on a besoin de sens, justement, on a besoin de la vie et des autres pour voir voilà, si on ne peut pas en tirer des éléments d'explication. Comme dans un cycle inlassablement funeste, ça dure depuis des décennies. Une chape de mort s'abat de nouveau sur Israël et la bande de Gaza. La férocité dont a fait preuve le Hamas palestinien en massacrant par centaines des civils, on parle de 900 morts hein, désormais, chez eux, et des jeunes lors d'un concert dans le désert a ouvert une traînée de sang qui peut se transformer aujourd'hui en rivière. En attendant de porter son sabre de fer, c'est le nom de l'opération, au cœur de Gaza, l'état-major de Tsahal rassemble ses forces et impose un siège complet à l'enclave palestinienne. À l'enfermement de 2 millions de miséreux, les Palestiniens, depuis des décennies, s'ajoutent dorénavant les coupures d'eau, de gaz et d'électricité. Et les bombardements déjà constants, en représailles ou pour préparer le terrain, promettent là aussi aux civils palestiniens de payer le prix fort dans la guerre qui s'annonce. Ce bout de terre sainte, baignée de soleil et de Méditerranée, n'en a pas fini avec le malheur. Le carnage du week-end dernier ouvre malgré tout une nouvelle ère où des pages vont se tourner. C'est probablement la fin de l'autorité palestinienne dans sa forme actuelle, sclérosée dans l'illégitimité et la corruption 19 ans après l'élection de Mahmoud Abbas. C'est aussi le dernier souffle de la solution à deux États, État d'Israël, État palestinien, chimère à laquelle les Israéliens céderont encore moins qu'avant, renforcés dans leur conviction de faire face à un ennemi mortel. Par dommage collatéral, le processus de normalisation avec l'environnement arabe de l'État juif, les pays arabes de la région, risque aussi de prendre du plomb dans l'aile, puisque vous saviez peut-être qu'il y a un processus de normalisation des relations ces dernières années entre plusieurs pays arabes et Israël. Il y a eu le Maroc notamment, il y a eu l'Égypte aussi, je ne dis pas de bêtises, et l'Arabie saoudite était sur le point de rentrer dans ce processus. Eh bien, ça risque d'être ralenti. Et même la démocratie israélienne, écrit le Figaro, malmenée par cette coalition qui est actuellement au pouvoir, qui est une coalition de droite extrême, d'extrême droite, disent certains nationalistes religieuses, dit le Figaro, pourrait finir au cimetière des illusions, donc la démocratie israélienne, si les tenants du grand Israël imposent leur vision du conflit israélo-arabe. Parce que, encore une fois, il y a des au sein même des deux sociétés qu'on évoque, palestinienne et israélienne, il y a des divisions, il y a des tensions. Hein. Vous avez des Israéliens qui sont extrémistes sur ce sujet, vous avez des Israéliens qui sont beaucoup plus progressistes et ouverts, et chez les Palestiniens, c'est la même chose. Le Hamas, allié objectif de tous les extrémismes qui fleurissent dans la région, a déclenché une œuvre de destruction dont on ne peut prédire où elle s'arrêtera. Voilà. Ça, c'est le Figaro. On verra justement, là, dans un instant, la position des pays arabes vis-à-vis du Hamas. Ce qui est étonnant, c'est que les pays arabes, nous disent les échos, sont majoritairement hostiles au Hamas. Je vous lis un petit peu. Merci Clara Pater pour le gentil message. Je lis quelques messages qui... c'est normal d'ailleurs sur un sujet aussi passionné que celui-ci de qui dénonce une vision biaisée qui serait la mienne. Moi, j'admire les gens qui sont... je parle un peu avec de l'ironie et du second degré, mais j'admire les gens qui sont convaincus. Les gens qui disent, alors moi je vais vous dire, je vais vous dire la vérité. Voilà. Les coupables, les responsables dans ce sujet, ce sont les Israéliens. Voilà, je vais vous dire pourquoi. Après plein d'arguments qui vont tous dans le même sens, bien sûr. Puis après, je vais lire quelqu'un d'autre qui va me dire, moi, je vais vous lire la vérité dans ce conflit. Et je vais vous dire, les responsables, les coupables dans ce conflit, ce sont les Arabes, ce sont les Palestiniens, et blablabla. J'admire ça, bravo, c'est formidable d'être convaincu. En vrai, je trouve ça extrêmement dangereux. C'est-à-dire qu'à un moment, je me méfie beaucoup, alors peut-être que j'ai tort, mais des convaincus. Des gens persuadés en fait qu'ils ont raison. Moi je doute en permanence, j'essaie de comprendre une situation éminemment complexe, voilà, je lis les arguments des uns et des autres, on se rend compte que la situation est compliquée, que parfois les torts sont partagés, que parfois les deux camps sont condamnables d'ailleurs, voilà. Et puis quand on dit ça, les partisans des deux camps vous disent que vous avez une lecture orientée et vous disent non, c'est moi qui ai la vérité, non. Donc tant mieux, pardon, je ne veux pas être agressif, mais je pense qu'intellectuellement, c'est assez confortable de, d'être persuadé d'avoir la vérité, de se réveiller le matin en disant que vous, vous savez que les autres ont tort. Ça n'est pas comme ça que je fonctionne. Je doute de tout, y compris de mes propres convictions, et j'en ai quelques-unes quand même. Voilà. Donc, libre à vous de penser que ma pensée est orientée, mais elle est dénoncée comme orientée par, dans le chat, des pro-palestiniens et des pro-israéliens. Donc, si les deux camps me disent que j'ai tort, c'est peut-être quelque part que j'ai peut-être pas tant tort que ça, je sais pas. On essaye de comprendre en tout cas. Alors ce que je constate avec les échos, c'est que les pays arabes sont embarrassés par ce truc et que majoritairement ils sont hostiles au Hamas, ce qui est quand même intéressant. Entre condamnation de l'attaque du Hamas et soutien affiché aux Palestiniens, les pays arabes ont du mal à dissimuler leur gêne depuis les événements de ce week-end. Les pays arabes qui quand même ont été longtemps en guerre contre Israël. Analyse proposée par les échos de deux spécialistes que sont Denis Bochard qui travaille à l'IFRI, qui est un chercheur, et Frédéric Ancel qui est un spécialiste du Proche-Orient et qui est professeur à Sciences Po. L'Égypte a cherché à endosser son habit de médiateur habituel entre Israéliens et Palestiniens, rôle traditionnel depuis la signature des accords de paix de 1978. La présidence égyptienne, par exemple, a appelé à arrêter l'escalade. Les Émirats arabes unis, merci Giorgio, les Émirats arabes unis se sont dit consternés par les attaques du Hamas, qui constituent une escalade sérieuse grave, selon eux. Les Émirats ont établi des relations diplomatiques avec Israël au titre des accords d'Abraham que certains évoquaient dans le chat tout à l'heure, qui ont signé en 2020. Ah ben voilà, on a la liste. Quels sont les pays arabes qui ont normalisé ce qui est assez nouveau, hein, leurs relations avec Israël ces dernières années, depuis 2020. Vous avez les Émirats arabes unis, vous avez le Maroc, vous avez Bahreïn, et je vois que ça concerne aussi le Soudan. L'Arabie Saoudite qui est un acteur essentiel dans la région. L'Arabie Saoudite a de son côté demandé l'arrêt immédiat de toutes les violences, tout en qualifiant Israël de force d'occupation et en évoquant la privation de droits légitimes subis par le peuple palestinien, ce que personne ne nie, hein, les gens sensés. Le royaume wahhabite était ces derniers mois en négociation avec Israël en vue d'un rapprochement. Il n'est pas impossible que ce rapprochement soit un petit peu ralenti. L'un des principaux objectifs du Hamas était justement de torpiller ce rapprochement entre Israël et l'Arabie Saoudite. Et d'une façon plus générale, de fragiliser les accords d'Abraham qu'on vient d'évoquer. Les deux experts précités soulignent que le Hamas représente avant tout un danger et un ennemi pour de nombreux pays arabes. Et là, on comprend un peu plus la position des pays arabes vis-à-vis du Hamas. C'est intéressant. En Égypte, le maréchal Sisi est arrivé au pouvoir en renversant, avec le soutien de Riyad et d'Abu Dhabi, le gouvernement de Mohamed Morsi, soutenu par les frères musulmans. Or, le Hamas représente la branche palestinienne et radicale des frères musulmans, qui a une vocation prosélyte dans l'ensemble du monde arabe, au-delà des seuls territoires palestiniens. Les frères musulmans ont eu un rôle déstabilisateur dans de nombreux pays lors des printemps arabes. Petite pause, je vous lis. Et après, je vais aller lire le dernier papier que j'ai trouvé dans la presse sur ce sujet, qui est dans Le Monde, qui est sorti cet après-midi. Je comprends le questionnement et l'inconfort de Clara Pater, qui est peut-être le questionnement et l'inconfort de beaucoup de gens ce soir, qui écrit « Je ne trouve pas que douter de tout est confortable. Personnellement, ça a tendance à me faire perdre mon sang-froid d'entendre des avis extrêmes sans recul. Et pourtant, je culpabilise énormément de ne pas me positionner sur ce genre de sujet, car quelque part, je ne me mouille pas pour aucun parti. Je ne sais pas si cela vous fait cet effet-là. Oui. Et si oui, comment le gérez-vous ? Oui. » D'être dans cette position que je revendique de douter de tout, et puis mais pas de m'installer dans le doute, c'est-à-dire de chercher à comprendre, à un moment, je peux m'en vouloir de ne pas prendre parti. je pense que mon avis se dessine, même si mon avis n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce n'est que mon avis. C'est mon avis qui est la somme de ma culture, de mes lectures, de mes réflexions qui sont forcément limitées sur le sujet. Même si je suis l'actualité du Proche-Orient depuis une trentaine d'années de par mon métier, c'est pas un grand mérite. Mon avis, c'est que dans cette histoire, les torts sont partagés et des fautes ont été commises des deux côtés, y compris d'ailleurs par la communauté internationale, y compris par les États-Unis, et qu'à un moment, personne n'a voulu sérieusement, sauf certains grands acteurs de la paix qu'on a évoqués, Yitzhak Rabin notamment, n'a voulu vraiment rétablir, installer la paix dans la région, et que des mal intentionnés, des extrémistes de tous bords ont fait capoter tous ces efforts, et encore aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc ça n'est pas douter de tout que de se dire que les responsabilités sont partagées, que des crimes ont été commis et sont commis de part et d'autre, voilà, et que on en est aujourd'hui, on a régressé quant à l'espoir un jour d'une paix dans la région par rapport à il y a 20 ans, 30 ans, quoi. Je vous lis. Merci Flo, 645 pour le troisième mois. Merci Zeratul, 67 pour le Prime. Merci Ekoff pour le Prime. Je vous lis. Je vous lis. Il y a beaucoup de commentaires. C'est parfois compliqué, mais j'essaye de choisir des commentaires qui reflètent un peu l'avis général du chat. Pardon si je ne vous choisis pas, d'ailleurs, parce qu'il y a sûrement des avis extrêmement intéressants que je rate, quoi. Merci, Romtan, pour les 5 abonnements offerts à la commune. Merci à toi. Peut-on nier la colonisation? Non, Kikiwik. À partir du moment où la communauté internationale avait imaginé un partage du territoire entre le plan initial complètement raté, hein, c'était ça, c'était un État palestinien, un État israélien, et puis il y a l'attaque des pays arabes de la région qui ne veulent pas de cet État juif, et qui fait que mais l'État hébreu se sert, en fait, et puis déborde, et puis prend des territoires. Et puis après, il y a autre chose, il y a le phénomène de colonisation des colons, voilà, on peut parler là des plus extrémistes, des plus militants parmi les Israéliens, qui vont, non pas par le fusil, par la guerre, mais par l'installation de la maison, la colonisation, gagner encore du territoire sur les Palestiniens, ce qui va créer de nouvelles tensions. C'est du grand n'importe quoi, on est bien d'accord. Personne, aucun d'esprit qui réfléchit un tout petit peu à ça, ni la colonisation, les mouvements de colonisation et la débilité du truc, quoi. Tout à fait. Spatule rappelle d'ailleurs que dès 48, le partage du territoire par l'ONU entre les Juifs et les Arabes était très inégal, déjà par rapport au nombre de la population, aux dépens des Arabes. Ouais, attention, alors après, la faute, les Occidentaux responsables de tout, ça aussi c'est trop simple. Il y a Dibor qui dit, Sally Samuel, tu dis douter de tout, mais la vérité est pourtant évidente. Alors, quand quelqu'un dit la vérité est pourtant évidente, c'est que t'as tort. Quelqu'un qui vous dit, dans un débat compliqué, la vérité est évidente, déjà, il a tout faux. Par exemple, Dibor dit, je le dis sans méchanceté, c'est bien de notre faute, l'Occident, que tout cela a commencé. Oui, ce plan là de 48, il marche pas, il est bancal depuis le début, bien sûr. Alors de notre faute, le sionisme, c'est une volonté d'une partie des juifs quand même, d'un moment, de se créer un état pour se mettre un peu à l'abri de l'antisémitisme et des violences. Voilà, c'est le sionisme, il part pas que des pays occidentaux. À un moment, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, quand on voit ce que les nazis et leurs alliés ont fait subir aux juifs, il est quand même pas totalement surréaliste que les pays occidentaux et l'ONU se disent bon, on va essayer de trouver une solution pour mettre à l'abri les juifs, on va leur donner un bout de terre à eux. C'est pas non plus totalement insane quand même, donc c'est assez le côté, mais c'est simple, enfin c'est la faute des occidentaux, mais avec ça en fait on va pas très très loin. Non, parfois c'est pas simple, parfois c'est compliqué. Voilà. Les gens qui vous disent sur un sujet compliqué c'est simple, c'est faux. L'analyse est fausse, c'est aussi simple que ça. Voilà. Arrête de t'énerver tout seul, Samuel Etienne, bordel. Parfois j'en fais des caisses quand même. À un moment, on peut pas tout simplement se dire que tout le monde est un peu tort dans cette histoire, que tout le monde a fait des conneries. Que les Arabes ont fait des bêtises, hein, que le move de la guerre contre l'État d'Israël à peine né, c'était quand même pas une dinguerie. Voilà, ils sont pris des déculottés militaires à chaque fois, soutenus par les Américains d'ailleurs. Est-ce qu'on peut pas dire que du côté des Arabes il y a eu des dingueries? Est-ce qu'on peut pas dire que ce que fait le Hamas est totalement à condamner? Est-ce qu'on peut pas dire que les colons juifs feraient mieux de rester chez eux? Est-ce qu'on peut pas dire que, enfin vous voyez, les responsabilités sont multiples et sont partagées. Vouloir absolument trouver qu'un seul coupable, forcément, c'est débile en fait. C'est que vous niez la complexité du sujet. C'est vrai que je suis un petit peu tendu. Il y a Romtam qui dit « T'es tendu, Natacha ». Ouais, t'as raison. Le Monde, le dernier article là-dessus, ça va me refaire descendre un petit peu. Akounir, merci beaucoup pour le Prime. Israël organise le siège de Gaza et masse ses troupes à la frontière, c'est les dernières infos. Benjamin Netanyahu prépare son opinion publique à un long affrontement. Voilà. Moi, ce qui m'énerve aussi, c'est qu'on va avoir dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, on va avoir des centaines, on va avoir des milliers de morts. Voilà. Et a priori, surtout du côté palestinien. Et je suis désolé, ça m'énerve un petit peu, quoi. Israël est une nation en armes. Quelque 300 000 réservistes répondaient mardi à la mobilisation la plus rapide jamais vue, annoncée la veille par l'armée. Vous savez que l'armée, c'est une institution en Israël. Tous les jeunes Israéliens, les garçons, les filles doivent un service militaire assez poussé en Israël. Voilà. Puis après, ils restent réservistes. Ils peuvent être appelés à tout moment. Voilà. Et vous avez aujourd'hui dans le monde entier des juifs qui reviennent actuellement en Israël pour participer à l'effort appelé par la réserve de Tzahal. Tous, explique Le Monde, rejoignent des forces qui se concentrent au pourtour de Gaza actuellement. L'armée assure que plus aucun membre du Hamas ne s'y trouve désormais, après 3 jours passés à les traquer. À présent, l'armée entend imposer un siège total à Gaza. Pas d'électricité, pas de nourriture, pas d'essence. Nous combattons, je cite, c'est une déclaration du ministre israélien de la Défense, nous combattons des animaux humains et nous agissons en conséquence. Ça, c'est la déclaration du ministre de la Défense israélien. On va parler de ces mots. Le bilan de l'attaque du Hamas ne cesse de s'alourdir. Il s'élevait mardi à 900 morts. L'ampleur du carnage qui sidère Israël incite le ministre que je viens de citer à ne distinguer qu'à peine dans son expression ces animaux, c'est lui qui utilise ce terme, combattants du Hamas et les 2 millions de résidents palestiniens de Gaza. La campagne massive des frappes israéliennes accélérée depuis dimanche a fait près de 700 morts. Pour l'instant, on est à 900 morts, 700 morts. Le vocabulaire du ministre est quand même particulier. Contribue à préparer l'opinion israélienne aux prochaines phases de la guerre qui pourraient être longues et dévastatrices. Ce nouveau... Alors, quand le ministre parle des animaux humains, il semble qu'il parle des combattants du Hamas, mais disons qu'il est assez flou pour qu'on se pose la question quand même. Ce nouveau conflit à Gaza, Benjamin Netanyahu, le Premier ministre, en fait une guerre de la civilisation contre la barbarie. Il cherche à s'assurer un soutien le plus ferme possible à l'étranger, en dépit... Écoutez bien, alors moi c'est un des passages dans les derniers articles qui m'a le plus troublé. Il cherche à s'assurer un soutien le plus ferme possible à l'étranger, en dépit de pertes civiles, dont l'État hébreu reconnaît qu'elles seront disproportionnées et qu'il espère à jamais dissuasives. Je vous relis ce passage qui est terrible. Benjamin Netanyahou cherche à s'assurer un soutien le plus ferme possible à l'étranger en dépit de pertes civiles, comprenez côté palestinien, dont l'État hébreu reconnaît qu'elles seront disproportionnées et qu'il espère à jamais dissuasives. C'est assumé, c'est déclaré, c'est annoncé. C'est ça qui va se passer. Alors c'est motivé, hein, c'est-à-dire que quand vous posez la question au responsable israélien, je vous dis, oui, c'est ça. C'est pour que le message passe, c'est pour que le message soit entendu, c'est pour que cela ne se reproduise pas, quoi. On est dans notre droit. C'est ce genre de discours. Hein. Quand je vous dis que les tarés sont des deux côtés, quoi. Que les responsabilités sont partagées. Netanyahou prépare l'opinion au risque qu'en cours des dizaines d'otages, peut-être plus d'une centaine, ça n'est pas que ça, que le Hamas détient sous les bombes à Gaza. Voilà. Question aussi sur le sort des otages. Hein. Il n'est pas impossible que les otages israéliens pris par les combattants du Hamas perdent la vie là, ou exécutés par le Hamas, ou tués par des frappes israéliennes. Et voilà, le monde se demande si Netanyahou n'est pas en train de préparer l'opinion publique israélienne à ça aussi. Le gouvernement se garde d'exprimer le moindre but précis pour l'instant, ni aucune limite de temps. L'objectif de la contre-attaque doit être de priver le Hamas de sa capacité à contrôler l'enclave. Cela impliquerait nécessairement une invasion. Mais l'envoi de soldats dans l'enclave surpeuplée est loin de garantir une éradication rapide du Hamas, puisque dans le passé, ça a déjà été tenté, ça n'a pas marché. Bien des Gazaouis sont là, fatigués du règne du Hamas, et se trouvent privés d'avenir sur ce territoire qui est soumis au blocus israélien depuis 2007, mais en s'engageant dans une guerre urbaine à Gaza, l'armée israélienne se trouverait au milieu d'une population hostile de 2 millions de personnes. Combien de temps faudrait-il que l'armée israélienne reste sur place? Combien de temps faudrait-il avant que ce conflit ne prenne une dimension régionale, avec éventuellement l'intervention d'autres acteurs régionaux comme le Hezbollah libanais? Voilà, beaucoup de questions, pas beaucoup de réponses. Une seule certitude, beaucoup de morts. Voilà, où on en est. Voilà, que dire? Je vous lis. Hamzo, merci pour le prime. Et puis après, on va, non pas pour changer les idées, mais on va lire d'autres articles pour vous dire qu'il y a autre chose dans l'actualité. Sachant qu'évidemment, le Proche-Orient, on va continuer à en parler. Quelle que soit l'ambiance dans le chat, je fais ce que je peux dans les prochains jours, parce que ça me semble essentiel. Bien, je pourrais rester tranquille à la maison et me passer de ça, parce que c'est, je comprends, hein, c'est fou. Ça fait des streams un peu tendus, mais comment ne pas en parler, quoi. Oui et non. Ben écrit, c'est dommage parce que tu donnes pas toute l'info. Ben écrit, fait que les citoyens palestiniens reçoivent des messages de prévention avant chaque attaque contre le Hamas. C'est partiellement vrai. Vous avez des messages de prévention avant les bombardements contre Gaza, c'est vrai. Mais souvent, ils arrivent beaucoup trop tard, voilà, pour permettre l'évacuation du bâtiment. Et deux, 700 morts en quelques jours, côté palestinien. Donc, tes messages de prévention pour éviter qu'il y ait des victimes, alors de deux choses l'une, ou il n'y en a pas, ou ça ne marche pas. Ben, tu aurais dû ajouter ça comme info. On est d'accord. Tu ne peux pas prendre qu'une petite partie de l'info, quoi. Et puis pour aller où, quoi, hein? Arrêtez de penser qu'il y a un camp, qui est le camp, pardon, hein, je vais me mettre tout le monde à dos, hein. Mais arrêtez de penser qu'il y a un camp du bien dans cette histoire. Voilà. Je ne crois pas qu'il y ait un camp du bien dans cette histoire. Merci Clara Pator. Merci Hamzo. Resque, est-ce que tu peux chanter Pandi Banda pour nous détendre? Je peux chanter Pandi Banda, mais je ne vais pas le faire parce que ce serait déplacé. Mais ça me fait rire quand même. Oui, c'est pas faux. Il y a Hubert Lache qui dit « Le pays d'Israël était censé être l'endroit où tous les juifs du monde devaient être le plus en sécurité. » Vous savez qu'il y a régulièrement, il y a des juifs du monde entier qui font, comment on dit, qui font l'aliyah, je crois que c'est le terme consacré, c'est ça, c'est faire l'aliyah, je sais pas sûr de moi, qui vont en Israël pour fuir des situations de violence, d'antisémitisme, l'antisémitisme dans certains pays. Je crois que c'est faire l'aliyah, ouais, c'est ça. Et donc oui, l'État hébreu est censément être l'endroit où ils vont être en sécurité, quoi. Alors peut-être que ce qui vient de se passer là, c'est-à-dire des combattants du Hamas qui pénètrent sur le territoire palestinien, oui, ça crée une forme de traumatisme. Et ce traumatisme, qu'est-ce qui va créer ? Une réaction sans doute encore plus violente, quoi. Voilà. Oui, David. David dit Israël n'a pas demandé à être attaqué par des terroristes. Ils ont le droit de riposter pour se défendre. Mais Israël, l'État d'Israël lui-même, l'armée israélienne elle-même, explique que la réponse va être disproportionnée et que énormément de civils et d'innocents vont mourir. Alors, Artosito, j'ai pas suivi le Guatemala, mais tu piques ma curiosité et je vais essayer de trouver des trucs dans les prochains jours. Bon, pour l'instant, on fait pause sur ce sujet. Je dis pour l'instant parce qu'on en parlera sans doute dès demain. Pas demain matin, puisque je suis en tournage de questions pour un champion, mais demain soir, je vous ferai une petite revue de presse. Et puis sûrement aussi vendredi dans l'Hebdo Étienne. Et puis lundi prochain, et mardi prochain, et mercredi prochain, et jeudi prochain, et ainsi de suite. Voilà. J'ai connu une époque, quand j'étais jeune journaliste, où le Proche-Orient était dans les journaux tous les jours. Ça a disparu. Dernière chose là-dessus, ça a disparu. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment, le monde entier, ces dernières années, a fait genre, c'est terminé. C'est-à-dire qu'en fait, rien n'était réglé, la preuve, mais à un moment, on a dit, qui vous parlait du Proche-Orient, là ? Vous avez vu, vous, ces dernières années, beaucoup d'articles dans la presse ? Non, c'était terminé, c'est-à-dire que voilà, on a vu que les pays arabes commençaient à normaliser leurs relations avec Israël. On a vu que de plus en plus les gouvernements israéliens et les Israéliens eux-mêmes étaient en mode bon, on n'a pas réussi à instaurer la paix avec les Palestiniens, mais c'est pas grave, ils sont en Cisjordanie et on va dire parqués dans la bande de Gaza. Finalement tout ça est plus ou moins sous contrôle. Il y a des attentats de temps en temps, il y a des tirs de roquettes, mais on a notre parapluie avec les missiles, etc. On va réussir à vivre comme ça. Et donc, on s'était habitué en fait à cette situation, alors que la peine n'était toujours pas là. Moi, j'ai connu une époque où on en parlait tous les jours du conflit israélo-palestinien, de l'espoir d'un processus de paix, et puis un jour, ça a disparu. Et je me suis dit, mais rien n'a changé. Non, mais c'est juste qu'on s'est habitué et que c'était devenu normal. Voilà. Et ben voilà, ça vient de péter. Ça vient de péter. Et là, on va en reparler. Heureusement. On va en reparler. Bon, allez, on va parler d'autre chose. Qu'est-ce que je vais vous mettre maintenant ? Alors, pour rester sur un truc assez sérieux, pas forcément plus souriant d'ailleurs, on va parler un petit peu de la France. Voilà, je suis pas sûr que ça apaise beaucoup plus apaise un peu le chat, mais c'est pas l'objectif ici. On n'est pas ici pour apaiser les choses. On est là ici pour essayer de les comprendre, les expliquer. Et là, on a une. Alors, je trouve ça passionnant. D'ailleurs, c'est à la une du Monde. Regardez, hop, à la une du Monde ici. Regardez. Colère et déclinisme. La France a l'humeur sombre. Vous voyez, je suis toujours sur quelque chose de très positif. La 11e vague de l'enquête annuelle qui s'appelle Fracture française révèle un fort sentiment de déclin en France dans toutes les catégories de la population. Voilà. Montée du pessimisme de notre pays. Voilà. Et un regard sur le Rassemblement national, sur Marine Le Pen qui est en train de changer. 44% des Français pensent que Marine Le Pen est capable de gouverner. 44%. Et c'est un bond de 19% depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. Voilà. 44% des Français pensent que Marine Le Pen peut gouverner, est en mesure de gouverner, est capable de gouverner, qu'elle a la capacité de gouverner. 44%. Et ça, c'est plus 19% depuis le premier mandat du président Macron. Donc, une France pessimiste et des conséquences politiques, lisons ça. Allez, colère et déclinisme. Une France à l'humeur sombre. La 11e vague de l'étude Fracture française réalisée par Ipsos Soprasteria pour Le Monde, la Fondation Jean Jaurès, le CEVIPOF et l'Institut Montaigne révèle une montée du pessimisme de l'ensemble de la population. La 11e vague de l'étude offre le tableau préoccupant d'une société à l'humeur sombre. Ça, c'est quand même un petit peu inquiétant. Jamais depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, autant de Français interrogés, ce n'est qu'un sondage, mais c'est un thermomètre, en plus c'est la même enquête chaque année, n'ont considéré, jamais autant de Français interrogés n'ont considéré que le pays était en déclin. Vous avez 82% des Français interrogés qui pensent que notre pays est en déclin, c'est plus 7 points en un an. Plus inédit encore est le fait qu'un tiers des Français pensent désormais que ce déclin est irréversible, une proportion jamais égalée depuis le début des enquêtes Fracture française. Le noyau dur, je suis désolé, le noyau dur des déclinistes, où le trouve-t-on, se compose d'un électeur sur deux de Marine Le Pen, mais inclut aussi des catégories qui jusque-là étaient plutôt optimistes, des cadres et des retraités. De même, la nostalgie reste forte. Dans notre pays, trois quarts des Français disent s'inspirer de plus en plus des valeurs du passé et pensent que c'était mieux avant. Il ressort de cette enquête annuelle deux sentiments collectifs dominants, colère, mécontentement, alors que, je vous lirai dans un instant, alors que seulement 4% des personnes interrogées trouvent le pays satisfait et apaisé. Si la France mécontente reste majoritaire, 51%, le sentiment de vivre dans une France en colère, contestataire, progresse très fortement. Quelques mois après la réforme des retraites et l'explosion des violences urbaines, on est passé de 31% en 2021 à 45% aujourd'hui de Français qui ont le sentiment de vivre dans une France en colère et contestataire. Voilà. Et ça, cette colère, elle monte dans tous les électorats, quelles que soient les classes d'âge, c'est pas que les jeunes, c'est pas que les vieux, c'est tout le monde. Je continue sur le constat. Alors pourquoi ce sentiment général là, de déclassement, d'inquiétude, de colère, de... L'inflation pèse sur le moral des Français. Le pouvoir d'achat reste la préoccupation qui surplante toutes les autres, 46%. Très loin devant le chômage, la menace terroriste, l'avenir de l'école, la dette publique. L'anxiété climatique gagne aussi du terrain, y compris à droite. Les électeurs d'Emmanuel Macron et d'Europe Écologie Les Verts, ainsi qu'un tiers de ceux du Parti Les Républicains, cite la protection de l'environnement comme première préoccupation, donc l'anxiété, elle vient aussi de là. L'électorat de l'extrême droite, par contre, fait figure d'exception, avec seulement un électeur sur six du RN préoccupé par l'environnement, c'est intéressant. Ces Français, donc les électeurs du RN les plus rétifs à changer de mode de vie, ont pour première préoccupation non pas l'inflation ou l'éducation ou l'écologie, mais... Le niveau de l'immigration. Voilà, première préoccupation des électeurs du RN, selon cette enquête, le niveau de l'immigration, ensuite il y a le pouvoir d'achat, ensuite il y a la délinquance. Malgré ce décalage, l'extrême droite séduit de plus en plus dans notre pays. Deux tiers des Français et près de la moitié des électeurs du RN considèrent toujours que le RN national est un parti d'extrême droite. Alors ça, je trouve ça très intéressant. Parce qu'il y a souvent ce débat dans le chat de gens qui m'interpellent en disant « Oui, Samuel, tu as dit que le RN était un parti d'extrême droite, mais le RN n'est pas du tout un parti d'extrême droite. Ils ont changé. » Puis alors moi, je vous explique après pourquoi moi, je, pour des raisons qui sont historiques, qui sont des raisons d'analyse politique, que le RN est un parti d'extrême droite. Et là, je lis que d'après cette enquête, où est le chiffre précisément, deux tiers des Français considère que le RN est un parti d'extrême droite. Et vous avez même, alors ça c'est très intéressant, vous avez près de la moitié des électeurs du RN qui pensent que le RN est un parti d'extrême droite. Voilà. Alors la prochaine fois que quelqu'un me dit dans le chat, Samuel, le RN n'est pas un parti d'extrême droite, je répondrai, la moitié des électeurs du RN pensent pourtant que c'est un parti d'extrême droite. Alors ça, je trouve ça quand même assez fascinant. Après année, ils sont quand même de moins en moins nombreux à le penser, hein, que le RN d'un parti d'extrême droite, ça baisse, c'est moins 4 points en un an. Surtout, l'obstacle de la compétence se fissure. Si la majorité des Français continuent de penser que Marine Le Pen n'est pas capable de gouverner le pays, ils sont de plus en plus nombreux à juger qu'elle le pourrait. 44%, plus 5 points en un an. 4 ans avant la présidentielle de 2027, depuis qu'Emmanuel Macron exerce le pouvoir, ce bond hein, de la capacité de Marine Le Pen à diriger le pays est spectaculaire, c'est plus 19 points. Comme l'an dernier, la France insoumise est vu comme un parti d'extrême gauche par 2/3 des Français, selon cette enquête. Dangereux pour la démocratie, selon 57% des Français. Et qui attise la violence pour 60% des Français. Un résultat qui confirme l'image repoussoire du parti de Jean-Luc Mélenchon, jugé cette année encore plus dangereux par les Français interrogés dans cette enquête que la formation fondée par Jean-Marie Le Pen. La défiance ne recule pas. Les Français pensent en majorité que les politiques sont corrompues. Parmi les exceptions, la confiance dans l'Union européenne, alors ça c'est étonnant, je ne m'attendais pas du tout à ça, qui atteint l'un de ses plus hauts niveaux historiques, 43%, je ne m'attendais pas du tout à ce résultat. Les syndicats recueillent aussi la confiance des Français après la bataille des retraites, c'est vrai qu'ils ont redoré leur image. 40% de Français ont confiance en les syndicats. Quant à la confiance dans les médias abîmés après la crise des Gilets jaunes, elle remonte. 33% des Français, j'ai envie de dire seulement, font confiance, ont confiance dans les médias. Loin tout de même devant les réseaux sociaux. Dans une société vécue comme violente, l'idée qu'il faut à la France un pouvoir autoritaire reste forte. Alors ça je trouve, pardon, moi je trouve ça inouï. L'idée qu'il faut à la France un pouvoir autoritaire reste forte. À travers un vrai chef pour remettre de l'ordre, 82%. Vous avez 82% des Français, 82%, qui pensent qu'il faudrait un vrai chef pour remettre de l'ordre dans notre pays. Hein, c'est le mythe du sauveur, quoi. Surtout, plus d'un tiers des Français pensent que d'autres régimes... Alors, le truc est surréaliste, quoi. Surtout, plus d'un tiers des Français pensent que d'autres régimes politiques peuvent être aussi bons que la démocratie. Un tiers des Français pensent que d'autres régimes politiques peuvent être plus efficaces que la démocratie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que la démocratie ? On ne parle pas régime parlementaire, régime présidentiel, là. On dit autre chose que la démocratie. Il reste quoi ? Bah, il y a la dictature, il y a la monarchie, il y a la théocratie. Putain ! On est où ? Faut que je m'hydrate. Alors, les gens qui répondent, je comprends, les gens qui me disent, oui, mais c'est parce qu'on n'est pas dans une vraie démocratie. Les gens qui répondent, le tiers du français, qui disent qu'il y a d'autres régimes qui pourraient être mieux que la démocratie, c'est pas des gens qui disent, cette démocratie, elle est incomplète, elle n'est pas parfaite, on n'est pas en démocratie, il faut l'améliorer. Ce sont des gens qui pensent qu'il y a mieux que la démocratie, quoi. Autre chose. Bien sûr que cette démocratie elle est imparfaite, bien sûr que la démocratie telle qu'on la vit en France elle est imparfaite et que j'espère que dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans si on est un petit peu optimiste, on regardera cette époque en disant bah, cette démocratie n'était pas complète, les droits n'étaient pas, les gens n'avaient pas les mêmes droits, les droits effectifs bien sûr, évidemment, mais c'est pas parce que le système est imparfait et que il ne mérite pas d'être radicalement amélioré et transformé qu'il faut sortir de la démocratie. Nom de Dieu, bordel de merde, excusez-moi si je puis me permettre. Voilà. Ce désamour à l'égard du régime démocratique est de loin le plus fort parmi ceux qui votent pour Marine Le Pen ou Éric Zemmour. Il a progressé toutefois partout, bondissant de 11 points en moins d'une décennie. Waouh ! Folie, hein ? Je vous lis un petit peu. Moi, j'ai pris une claque avec cet article. Alors, pour ceux que ça intéresse, c'est à lire... Dans Le Monde, c'est la dernière édition du Monde, vous pouvez la télécharger super facilement ou l'acheter en kiosque, c'est page 10 et 11. Voilà. Moi je suis d'accord avec Mix, on peut rigoler un petit peu, qui dit dans 30 ans c'est Mad Max, hein. Voilà, ce sera la guerre, voilà, il y aura Mel Gibson, on sera en bagnole, avec... on fera la guerre pour le pétrole et tout. Non mais où on est quoi, et où on va, c'est waouh, en tout cas il y a de l'inquiétude quoi. Voilà. Alors, y a des régimes que je n'ai pas cités, l'anarchie, on me les cite dans le chat, l'Empire Galactique, je ne l'ai pas cité, effectivement, voilà. 56, la mise en trop, merci beaucoup pour le 14e mois, Yo-Yo Man, merci pour le 25e mois d'abonnement. C'est Churchill, hein, je crois qu'il disait, je crois que c'est Churchill, à vérifier, que la démocratie était le pire des régimes, à l'exception de tous les autres. Ah, moi je suis là pour vous apporter des bonnes nouvelles. Moi je suis là pour vous mettre le cœur en joie, pour vous soulager des. Voilà. Non mais je rappelle un truc que je ne vous dis pas souvent. Dans les journaux, il n'y a que les mauvaises nouvelles. Voilà. Alors c'est un espèce de. c'est une espèce de parti pris des journalistes, un peu du monde entier, qui est de dire que l'information, c'est ce qui ne va pas. C'est ce qui ne va pas. C'est ce qui ne va pas de soi. C'est ce qui devrait être corrigé. Voilà. Plutôt que vous dire bah, ça va, c'est plutôt ça va pas, il faudrait faire quelque chose. Ça va pas, il faudrait faire quelque chose. Bon, j'ai une vision un petit peu optimiste de mon métier. C'est pour ça que les journalistes rapportent beaucoup, beaucoup de mauvaises nouvelles. Donc ça, c'est le côté un petit peu optimiste que j'ai. Et puis, il y a une autre raison qui est beaucoup moins sympa. Voilà, Natsu l'écrit dans le chat d'ailleurs à l'instant. Les mauvaises nouvelles, ça fait vendre. Alors, vous êtes très nombreux à dire régulièrement... Ah, c'est quand même dommage que dans les journaux, il n'y ait pas plus de bonnes nouvelles. Et puis vous me le dites et vous avez raison. Hey Samuel, tu pourrais pas non plus nous parler de trucs qui marchent. Voilà. C'est vrai. Sauf que quand un média fait ça, voilà, eh ben ça se vend pas très bien, ça se vend moins bien. Voilà. Les chaînes d'infos en continu l'ont bien comprise. Et si les chaînes d'infos en continu vous racontaient toute la journée, certaines notamment, que ça va, qu'il y a des trucs sympas, voilà, ben en fait, les gens seraient contents, mais ils regarderaient pas trop, en fait. Voilà. Et en fait, les gens regardent quand ça va pas, quoi. Voilà. Donc, il y a aussi cet aspect-là qui est un peu moins cool, quoi. Mais n'oubliez pas, et c'est là où je voulais en venir, que moi, je vous rapporte énormément de mauvaises nouvelles. Mais que le monde ne se résume pas à ça. C'est-à-dire que, ne serait-ce que dans votre vie quotidienne, autour de vous, il n'y a pas que toutes ces mauvaises nouvelles rapportées par les médias. L'essentiel de votre vie, il n'est pas là. Il est dans les petits plaisirs, bonheur du quotidien, dans la joie que vous pouvez avoir, je vous le souhaite, dans votre travail, dans vos relations avec vos amis et votre famille. Le bonheur que vous pouvez avoir, je vous le souhaite, dans votre vie de famille ou dans votre vie sociale ou dans l'accomplissement professionnel. Voilà. Et votre vie, c'est de ça d'abord qu'elle est remplie. Voilà. Donc, certes, je pense qu'il faut consommer l'information pour être un citoyen éclairé et pour pouvoir participer à la vie du pays, la vie démocratique, notamment lors des scrutins, pour être à peu près au courant de ce qui se passe. Mais ne surconsommez pas non plus l'information, surtout quand cette information elle est aussi déprimante, quoi. Voilà. Il faut à la fois être conscient, hein, et pas inconscient, et en même temps savoir garder une certaine distance et vous dire que l'essentiel... n'est pas là. L'essentiel, c'est vous, c'est votre vie au quotidien, quoi. Mais en même temps, votre vie au quotidien, elle peut être impactée par toutes ces mauvaises nouvelles et par la politique. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'en désintéresser. Voilà. Romtam, ce jour arrive bientôt. Il y a Romtan qui écrit dans le chat, le jour où Samuel Etienne nous fera un topo des mauvaises nouvelles de la journée et finira par un Rocket League pour oublier ça, on pourra mourir tranquille. Non, Romtan, parce que je ne veux pas que tu meurs à court terme. Et ça arrive bientôt. C'est-à-dire que mon setup de gamer, il arrive là. Il arrive jeudi, il arrive vendredi. Pas les deux, l'un ou l'autre. Voilà. Il arrive, on l'installe dans cette pièce, Joe m'aide à l'installer et on va jouer. On va jouer à Rocket League, on va jouer à The Witcher, on va jouer à Mario Kart, on va jouer à F1 23, on va jouer à quoi ? À World of Warcraft. Voilà. Vous allez vous moquer. Voilà. Je n'arrive même pas à déplacer mes personnages. Voilà. Je suis nul. Voilà. Quand j'ai un adversaire à frapper, en général, je lui tourne le dos. Voilà. Je ne connais pas les raccourcis sur Mario Kart. Je suis une catastrophe. Donc ça va être backseat non-stop. Vous allez devoir m'accompagner, me prendre par la main, m'expliquer, me dire « Attention, ça met la droite. Attention, ça met la gauche. Non, c'est dans l'autre sens. Non, t'as rien compris. » etc. On va bien rire. Voilà. Donc c'est pas moi qui vais vous montrer des trucs. C'est vous qui allez m'expliquer. Mais on va rigoler. Voilà, on fait ça bientôt. Voilà. Adieu, sommeil. Adieu, vie de famille. Adieu. Je vais tout arrêter. C'est bientôt. C'est bientôt, ça va être marrant. Bon, voilà, je pense que j'ai des choses moins lourdes dans l'actualité. Oui, ce sont les deux articles que je vous ai mis de côté et que je n'ai pas eu le temps de vous lire. Suspense, je regarde l'heure, est-ce que j'ai le temps de vous les lire ce soir ? Oui, 1h49 de stream, oui. On va prendre le temps, on va finir avec deux trucs qui ne sont pas forcément des bonnes nouvelles, mais qui ne sont pas non plus des mauvaises nouvelles. On va parler de Formule 1 et on va parler de jeux vidéo. Famous, merci beaucoup pour ce troisième mois d'abonnement. Hop, ça c'est un article du Figaro d'hier, de lundi, sur la fin du championnat de Formule 1, parce que ça, en gros, ça y est, on a le champion. Verstappen, un prodige élevé à la dure. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà du constat que Verstappen, le Néerlandais, a décroché son troisième titre mondial, eh bien, il y a un article qui se penche sur le travail colossal, en fait, qu'il a réalisé à la limite du sacrificiel pour en arriver là. Et en vrai, je trouve ça assez intéressant. Il y a MMG qui dit qu'il reste encore 5 GP. Bon, il reste des Grands Prix, bien sûr. Mais bon, le champion du monde, on l'a. J'ai beaucoup aimé cet article de Cédric Calier. On ne naît pas champion, on le devient. Cette phrase aux allures de devise de nombreux sportifs l'ont claironnée, de Tony Estanguet, hein, le président du comité olympique français, qui sera l'invité de cette chaîne dans pas longtemps. Tony Estanguet, je ne vous l'ai jamais dit, bon voilà, c'est calé, on est en train de caler ça. On parlera des Jeux Olympiques de Paris, vous poserez toutes les questions que vous voudrez sur les Jeux, Tony Estanguet, bientôt dans la rencontre Étienne. De nombreux sportifs l'ont claironné, de Tony Estanguet à Raphaël Poiré, en passant même par un équipementier américain, la célèbre virgule, qui en avait fait le slogan de l'une de ses campagnes publicitaires. Ce qu'elle ne dit pas, en revanche, cette phrase, ou ce qu'elle se contente de sous-entendre, c'est comment on devient champion. À la force du poignet. Enfin, quand on dit à la force du poignet, c'est-à-dire en faisant beaucoup d'efforts. Enfin, poignet. Non, parce que je vous connais. En faisant preuve d'une détermination inépuisable et d'un sens du sacrifice souvent hors du commun. Sans travail, le... Voilà, je savais que vous alliez faire la blague. Je savais. Je savais que... qu'il y a des mots comme ça, vous êtes tellement potache, le poignet, et ça y est, vous êtes parti tout de suite. Il y a des mots qui ne sont plus innocents, voilà. Vous dites poignet, qui est un joli mot, voilà, c'est juste cette petite partie, voilà, très, très pratique du corps, là, voilà, qui permet de bouger son poignet, comme ça, en tous sens, voilà, de, en arrière, en avant, sur les côtés, latéralement, voilà, et tout de suite, vous partez sur des conneries. C'est dingue, ça. Galford, merci beaucoup pour le Prime. Warscott, merci pour le 15e mois d'abonnement. On continue. Donc, à la force du poignet, en faisant preuve d'une détermination inépuisable, d'un sens du sacrifice souvent hors du commun, sans travail, le talent n'est rien ou si peu. Certains le comprennent très jeune, ne gâchent pas leur don, d'autres n'ont jamais cette discipline et ce don de soi. De l'avis de tous ceux qui l'ont côtoyé de près, Max Verstappen fait partie de la première catégorie. Ah, vous allez voir. Alors oui, certains vont dire, oui, voilà, une espèce d'ode à l'effort, à la ténacité, la réussite, le travail engendre la réussite. C'est un petit peu plus compliqué que ça, puisque vous allez voir que le modèle d'éducation de Verstappen est quand même interrogé un tout petit peu par le Figaro. Si à 26 ans et quelques jours, il a 26 ans, c'est un enfant, le Néerlandais a conquis son troisième titre de champion du monde de F1 samedi au Qatar, il ne doit rien au hasard. Mais peut-être déjà un peu la génétique, lui le fils de Jos Verstappen, ancien pilote aux 107 départs et 2 podiums en Formule 1, le papa était un ancien pilote de F1, la maman Sophie Kumpen, ancienne pilote renommée de karting, qui avait mis fin à sa carrière quand elle a eu Max, quand elle était enceinte à 21 ans, donc vous avez les parents qui sont déjà 2 pilotes, quoi. Avec une telle filiation, il n'y a rien d'étonnant à ce que le petit garçon tombe très vite, non pas dans la potion magique, mais dans un kart. Rencontre, non, coup de foudre, qui survient à l'âge de 4 ans, le gamin a 4 ans, bam, il est mis dans un kart. Du côté de Genk en Belgique, plus vite encore que ne l'escomptait son père, Jos Verstappen, dont le plan consistait à faire débuter son fils plutôt à 6 ans. Voilà. Un âge où, selon lui, les enfants sont plus à même de comprendre et d'assimiler ce qu'on veut leur apprendre. Pour que le père, il avait déjà tout un plan, et on va voir que le père, il était quand même un petit peu limite. Sauf que très vite, le paternel se rend compte que le fils n'est pas comme les autres. Manifestement, il est naturellement doué. Lui qui emporte ses premières victoires dès ses débuts en compétition à 8 ans, ce qui va inciter Jos Verstappen, le papa, à appuyer sur l'accélérateur, excellente image, puisqu'on parle de Formule 1, et à le pousser encore plus fort, avec des méthodes fortes, trop sans doute, écrit le Figaro, mais cela fonctionne. Qu'il pleuve ou qu'il fasse moins de degrés. On testait des choses, se remémore l'ancien pilote Minardi ou Arrose dans les colonnes de l'autojournal. Max n'avait pas le choix. Il devait rouler. Parfois, il rentrait au stand, les mains glacées. Je lui disais d'aller se réchauffer quelques minutes dans la camionnette et quand il ne revenait pas, j'allais le chercher et je le forçais à rouler à nouveau. Il ne pouvait plus bouger ses doigts. Je m'en fichais. Hein, c'est le papa qui parle. Ce n'était pas très drôle pour lui, mais ça lui a forgé le caractère. Merci beaucoup, Sido. Le désormais triple champion du monde, lui, garde un autre souvenir de cette époque et de cet apprentissage à la dure. Il dit, Max Verstappen, je me souviens d'une course de Coupe du Monde KZ2, c'est une catégorie de karting, en 2012 à Sarno, dans le sud de l'Italie. Écoutez bien, je dominais l'épreuve, mais mon adversaire avait réussi à me doubler dans les derniers tours. Pressé de le redoubler, j'avais alors tenté une manœuvre trop hâtive et on s'était accroché. Mon père était furieux, on a remballé le matériel sans dire un mot. On est monté dans la camionnette Après quelques kilomètres, le papa s'est arrêté dans une station-service, raconte le fiston, pour prendre de l'essence et au moment de repartir, il a dit à son fils, « Toi, tu descends et tu appelleras ta mère pour rentrer. » Et puis, il est parti. Une éducation qui en ferait bondir plus d'un aujourd'hui, mais que ne regrette pas le père. Non, il ne l'a pas aspergé d'essence, non. Jos Verstappen, si vous analysez, dit-il, cela maintenant, il est évident que j'étais parfois un peu trop dur, dit-il, mais sur le moment, cela me semblait être la meilleure chose à faire, surtout que Max était très têtu, qu'il avait besoin de cette fermeté. Je pense sincèrement que cela l'a rendu meilleur et poussé à devenir mature plus vite. Cette éducation a longtemps donné naissance à des rumeurs de violence physique, d'autant que Jos Verstappen a été condamné pour violence conjugale à l'encontre de son ex-femme et mère de Max, dont il est divorcé, mais jamais le pilote Red Bull, le fils, n'a confirmé ses violences contre lui. Au contraire, dans ce que certains pourraient comparer à un ersatz de syndrome de Stockholm, il vante même les bienfaits de cette éducation à la dure. J'étais souvent trop relax quand j'étais petit, ce que mon père n'aimait pas. Je ne compte plus les fois où je l'ai entendu me dire que je deviendrais un conducteur de camion, que j'étais l'idiot du village, ou tout simplement que je n'y arriverais jamais. Mon père était toujours très strict avec moi quand les choses allaient moins bien ou que je ne faisais pas de mon mieux. Ces humiliations m'ont encore plus motivé. Je voulais prouver à mon père que j'étais assez rapide et que j'étais assez impliqué. Mon père voulait toutefois toujours tirer le meilleur de moi et il y arrivait. Ça, c'est le regard de Max Verstappen sur l'éducation de son père. Ma modeste analyse là-dessus, c'est que peut-être parce que cet enfant avait du caractère, il a relativement résisté à cette éducation violente, ultra-violente, mais que s'il n'avait pas eu ce caractère, il aurait sans doute, été brisé, quoi. Évidemment, difficile de faire l'éloge d'une telle méthode sans y mettre de sérieux bémol. C'est le Figaro qui l'écrit. Toujours est-il que le résultat, lui, est éloquent. Bon, ben, le résultat est là, effectivement. Du karting à la Formule 1, en passant par la Formule 3, Max Verstappen n'a eu de cesse d'accumuler les succès et les records de précocité. Fin de l'article. Surtout avec le temps, le fainéant Max est devenu la maturité, aidant un bourreau de travail. Et ça, c'est un autre élément d'explication du succès de Verstappen, qui est triple champion du monde. Donc, il y a le fait qu'il commence très très tôt, qu'il est naturellement doué, qu'il a eu cette éducation très dure. Et il y a autre chose, il est devenu aussi un bourreau de travail, et c'est peut-être ce qui explique aussi son triple titre. Christian Horner, le patron de Red Bull, affirmait il y a peu, il a cette fin, inextinguible de victoire. Il ne se satisfait jamais de son résultat. En ayant toujours le regard tourné vers l'avenir, il est déterminé à tout. Il sait comment se concentrer sur l'essentiel sans se laisser distraire. Et plus essentiel encore, c'est un coureur jusqu'au bout des ongles. C'est pourquoi il s'assoit si souvent dans les simulateurs de course lorsqu'il ne conduit pas un Formule 1, ce que je vais faire très bientôt avec vous d'ailleurs, et bientôt je deviendrai moi aussi un grand champion de Formule 1. Je vous lis un petit peu là-dessus, puis on parle de des intelligences artificielles à la télé. Ouais, c'est pas fou, mais enfin c'est triste. La patate douce écrit, la plupart des grands champions ont été élevés à la dure. Tiger, Jordan, c'est pas une coïncidence, le mental ça s'invente pas. Ouais. Alors, c'est peut-être pas vrai, parce qu'il y a ça, il y a Yasegamo qui me dit intéressant par rapport à l'éducation, diamétralement opposée à celle qu'a reçue Lewis Hamilton, par exemple. Oh, j'ai soif, parce que j'ai couru avant de venir, là. Le petit footing du soir. Ouais, bien sûr. Faco cher. Combien d'enfants sacrifiés? Hein, les filles, les sœurs Williams aussi, hein, ça a été ça. Hein. Combien d'enfants sacrifiés sur l'autel des rêves de parents? La course à la performance a ses limites, encore plus dans l'épanouissement et la construction d'un enfant. Tu prêches à convaincu. Moi, je n'ai aucune envie que mes enfants deviennent champions du monde du quoi que ce soit. Je leur souhaite d'être heureux, de trouver l'équilibre dans l'équilibre qu'ils vont se trouver, qui sera sûrement différent du mien. Ils bosseront comme des fous ou ils bosseront pas comme des fous. Voilà. Je ne sais pas où sera leur équilibre. Voilà. Je veux juste essayer de les accompagner. S'ils veulent faire du pain, ils feront du pain. S'ils veulent devenir policiers, eh bien, ils deviendront policiers. S'ils veulent devenir poissonniers, ils deviendront passionnés. S'ils veulent faire de la politique, ils feront de la politique. S'ils veulent devenir journaliste, ils deviendront journalistes. S'ils veulent devenir streamer, peu importe. Du moment qu'ils soient un petit peu doués quand même pour ça, que ça corresponde un peu à leur caractère, leur envie, qu'ils s'appliquent, qu'ils le fassent bien. il ne s'agit pas qu'ils deviennent champions du monde dans leur discipline, mais qu'ils le fassent bien, parce que je pense que dans un travail bien fait, il y a quand même de la satisfaction, une forme de plaisir, qui participe à un équilibre général. Voilà. Mais, et puis après, s'ils veulent venir des dingos de travail, comme leur papa, libre à eux, quoi. Mais il n'y a pas de recette, en fait. On est tous différents, et notre équilibre, notre bonheur, vous appelez ça comme vous voulez, il diffère selon chacune personne. Voilà, voilà comment j'essaie d'éduquer les miens, les chouchous. Sans les laisser faire tout et n'importe quoi, on est d'accord. Hein. L'éducation, c'est aussi c'est accompagner. Hein. C'est pas quoi que tu fasses, c'est très très bien. Ah putain, j'ai laissé le message. J'avais pas vu. Contient un partenariat rémunéré sur ce stream qui n'est pas sponsorisé, mais c'est ce que je mets quand je fais Simplay qui est sponsorisé par Boulanger et Lenovo. C'est un truc que je coche pour que les gens sachent que ce partenariat est rémunéré en plus des visuels et je l'ai pas enlevé là. Donc voilà, ce partenariat n'est pas rémunéré à ce jour. Enfin, ce stream, vous l'avez compris. Est-ce que tu aimerais avoir une fille? Bien sûr, j'en rêve. T'es fou, quoi. Sarita, je rêve d'avoir 1000 enfants, moi. Donc j'en ai deux. Voilà. Ça se juge pas, hein, le fait de vouloir des enfants ou de pas en vouloir. Moi, c'est fine de pas vouloir d'enfants. C'est fine d'en vouloir beaucoup. On fait ce qu'on veut, bordel. Hein. Du moment qu'on s'en occupe correctement. Moi, j'aimerais bien en avoir plus, mais je sais pas si on en aura plus. Mais une fille, moi, j'aimerais bien. Garçon, fille, du moment qu'il est en bonne santé, le chouchou. Quel âge j'ai on va dire 22 ans, allez. Enfin, c'est les soldes. Ah bah bien sûr, bien sûr, il y a Sodara qui dit, est-ce que ta femme en veut plus? Parce que c'est ça qui est important. Évidemment que c'est ça le sujet. Moi, je veux bien avoir plus d'enfants, je kifferais quoi, même si c'est du boulot. Salut les Quibronaises. Salut, c'est les meilleurs. Il y a une Quibronaise, il y a Blue Bull Marie dans le chat. C'est les meilleurs, c'est les Quibronaises et les Quibronaises. Il y a zéro débat là-dessus. C'est une vérité, voilà. Les Bretons sont déjà au top, mais les Quibronais, les Quibronaises. Voilà. Évidemment que c'est la maman qui décide. Hein. Moi, je ne cache pas que j'aimerais bien plus d'enfants, mais ça, c'est quand même la maman qui le porte. Voilà. Et donc, évidemment que c'est un projet à deux, en fait, tout simplement. Donc, il faut que ce soit un souhait commun. Donc, si elle veut, on en aura. Si elle veut pas, on s'arrêtera à deux. Allez, maintenant je voulais vous parler des IA, des intelligences artificielles en matière d'information. Longtemps je me suis dit, mais jamais les IA vont remplacer les journalistes, les présentateurs notamment. Je commence à m'interroger un petit peu, une page dans le Figaro. IA, les nouvelles speakerines artificielles déjà stars à la télé et en streaming. Nom de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ces présentatrices virtuelles sont corvéables à merci, ok, peu chères, ok. Et parfois plus vrai que nature, eh ben, c'est bien flippant, je peux vous le dire. Le jour de son arrivée à l'antenne, la vice-présidente du groupe audiovisuel Indian Today, donc on est en Inde, Kali Puri n'a pas tari d'éloges sur sa nouvelle recrue. Elle est brillante, elle est magnifique, elle est infatigable, elle ne vieillit pas, elle parle plusieurs langues. Boy, 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 boy. C'était au printemps dernier, le premier ministre indien, en personne, faisait le déplacement pour assister au lancement de Sana Kesako. Sana, une présentatrice d'information à la silhouette sculpturale, nom de Dieu, ou plutôt une IA montée sur Stiletto qui assure le lancement de flash d'actu sur l'une des principales chaînes d'infos en indie du pays, hashtag propriété d'India Today. À ceci près qu'elle s'exprime en anglais aussi bien qu'en indie, ainsi qu'en 75 autre langue. Sana n'est pas la seule speakerine robotisée du pays, tout aussi virtuelle, ses consoeurs Lisa, en sari marron, Sundaria, qui sont apparues sur d'autres chaînes, Odisha TV, et l'autre sur Power TV. Vous voulez des IA à l'antenne? Eh ben en Inde, manifestement, il y en a partout. Zappez sur d'autres chaînes indiennes et vous tomberez sur Maya, sur Vebavi, sur Core. Mais nom de Dieu! Nom de Dieu! Feda, alors une autre, a les cheveux blonds, je crois que c'est elle, là. Donc c'est, comment s'appelle cette dame? Feda, voilà. C'est une IA, c'est un robot. Feda, incroyable! Feda a les cheveux blonds, bah c'est au-dessus de la nuque, un teint de porcelaine, je vous mets la photo, des yeux joliment mordorés. Ah, c'est sûr, moi j'ai pas les yeux mordorés. Sa tenue sobre, une veste noire sur un t-shirt blanc, sied parfaitement à la rigueur de sa nouvelle fonction. En avril, Feda donc fait ses premiers pas en tant que présentatrice pour un média koweïtien. Allez, on va au Koweït maintenant. Sa vidéo a suscité un flot de réactions sur les réseaux sociaux pour une raison simple, la jeune femme n'existe pas. Elle aussi fait partie de cette nouvelle génération de journalistes éprouvettes,
ok,
fabriquées dans le liquide amniotique de l'intelligence artificielle. On a été en Inde, on était au Koweït, allez, on va en Indonésie, qui a adopté Nadira et Sazia, deux nouvelles speakerines fictives désormais partie intégrante de la salle de rédaction de TV One. Allez, c'est parti. Le diffuseur, on va à Taïwan, le diffuseur taïwanais FTV, tiens, c'est comme France Télévisions, mais c'est à Taïwan, n'est pas en reste. Les bulletins météo des deux minutes qui ont été délégués à une IA qui a pris l'apparence d'une jeune femme à la plastique impeccable. Vous notez que toutes ces IA sont des présentatrices et sont manifestement des jolies femmes. Hein ? Vous aurez noté ? On se demande qui a pensé ça. Je dis ça, je dis rien. C'est bizarre. Hein, c'est que des femmes, quoi. Ok ? On est où là ? On est à Taïwan. Voilà. Plus près de chez nous, c'est désormais l'avatar Jade qui fait la pluie et le beau temps sur la chaîne de télévision suisse M Le Média. Les Suisses ? Vous aussi ? La présentatrice météo a été recrutée dans les rangs de l'IA, faute pour le diffuseur d'avoir pu trouver une vraie candidate. Peut-être que le salaire n'était pas à la hauteur. Ces nouvelles incarnations virtuelles peuvent aussi refaire le match. Depuis quelques jours, allez, c'est parti, on va aux Philippines. Maya et Marco ont entamé une carrière de présentateurs sportifs au GMA Network, aux grandes dames des chroniqueurs sportifs bien réels, qui disent l'IA ne peut pas reproduire l'amour, la passion du jeu. Elle ne peut pas transmettre l'énergie et l'émotion qui s'en dégage, a dénoncé l'un d'eux, Anthony Sente, dans la presse locale. Lorsqu'en 2018, l'agence de presse d'État chinoise Xinhua avait mis pour la première fois à l'antenne son propre présentateur virtuel, la voix légèrement mécanique et ses expressions robotiques ne faisaient pas vraiment l'illusion. Aujourd'hui, le résultat est le plus souvent bluffant. En Asie, les téléspectateurs se sont aujourd'hui familiarisés avec ces ordinateurs à visage humain. Ça fait presque 3 ans, par exemple, que MBN, la 5e plus grande chaîne sud-coréenne, a dédoublé Kim Yoo-ha, qui est l'une de ses journalistes vedettes, mais qui est en double maintenant. Vous avez la vraie, et puis vous avez celle en IA, pour créer cet avatar qui est à l'antenne tous les jours. Elle n'a pas besoin de vacances, elle n'a pas besoin de week-end, elle n'a pas besoin de dormir. MBN a filmé 120 heures de JT présentées par la vraie présentatrice Kim Yoo-ha afin de coller l'image sur un modèle numérique, rapporte un article de la revue des médias de l'INA. L'INA qui est le partenaire de l'hebdo Étienne, que vous retrouverez bientôt. MBN a capté les intonations, les gestes, les respirations de la vraie présentatrice, avec l'ambition d'aboutir à une copie presque parfaite pour que le téléspectateur puisse reconnaître la journaliste et lui faire confiance comme si c'était un être humain. Waouh ! Et c'est bien là le danger, au regard du potentiel de désinformation des nouvelles technologies. En brouillant un peu plus les frontières, ces nouvelles égéries artificielles de l'info pourraient finir par mettre à mal la crédibilité des médias, renforçant un peu plus le sentiment de défiance généralisée. Parce que, comment dire, le journaliste, il n'a pas très bonne presse, pas une très bonne image, mais bon, on peut estimer, c'est mon espoir en tout cas, que le journaliste il est en capacité de résister à des tentatives de pression, d'actionnaires, de lobby politique, économique. Mais demain, une IA, ben, vous lui faites dire littéralement ce que vous voulez. Qui est derrière l'IA ? Qui programme l'IA ? Qui ? Vous voyez ? Oui. Rien ne dit qu'à l'avenir, les nouvelles speakerines IA ne serviront pas à faire de la propagande. Adoptées en Asie, elles sont encore loin de devenir les nouvelles stars du petit écran hexagonal. En France, ça n'est pas encore le cas. En France, les chaînes d'info et les JT demeurent des bastions imprenables. On n'a pas encore d'IA a priori. Hein. Anne-Sophie Lapix version IA n'est pas pour demain sur France 2, j'espère bien. Son homologue Gilles Boulot aux commandes du JT de 20h de TF1 ne sera pas délogé non plus de sitôt par un clone numérique, j'espère bien. Pour autant, les journalistes synthétiques ont de beaux jours devant eux. Ces présentateurs d'actu virtuels peuvent analyser instantanément de grandes quantités de données provenant de plusieurs sources et d'effectuer des mises à jour en temps réel sur les événements en cours, fait valoir une société d'IA qui s'appelle Deep Brain. Alors que les chaînes d'info sont engagées dans une course au scoop, avoir un présentateur qui a la capacité à la vitesse de l'éclair d'ingurgiter des tonnes d'infos pour les synthétiser, les redonner, bah c'est vrai que ça peut tenter les chaînes d'infos qui sont dans cette course à la rapidité. Alors que les chaînes d'infos sont engagées dans une course au scoop, que les médias ont basculé dans l'ère de l'immédiateté, un double virtuel offrirait, selon la start-up coréenne, un gain de temps de 10 à 20 minutes consacrées à un présentateur en chair et en os, presque une éternité sur l'horloge de l'actualité. Pour ne rien gâcher, grâce à des algorithmes de deep learning et des technologies avancées de synthèse vocale, les présentateurs de journaux télévisés par IA vont délivrer des informations avec une prononciation et une clarté irréprochables. Moi qui n'arrête pas, notamment quand je stream tard le soir comme ça, de bafouiller, de manger des mots, l'IA, jamais. Voilà. En bref, ils ont presque tout pour plaire, y compris d'un point de vue financier. Exit le matériel et les équipes de tournage, pas besoin de maquilleuse, pas besoin de studio. Hein, Deep Brain estime environ 400 000 dollars le montant annuel des gains réalisés. Hein. Le clone de Kim Jong-un sur MBN, par exemple, ne représenterait selon la chaîne que 20% du coût de la vraie journaliste. Et il y en a pour toutes les bourses. En Espagne, par exemple, Radio Serrania, qui est une radio municipale d'une commune au nord-ouest de Valence, a pu élargir son audience à très peu de frais en déléguant à deux animateurs virtuels la présentation d'une nouvelle émission d'info à destination des villages de la région. Waouh ! Vous en pensez quoi ? Certains sont optimistes. Yoascan, une IA, pourra fact-checker en temps réel lors d'une interview d'un politicien. Thierry, moi je mets sur la table qu'on aura bientôt une chaîne qu'avec des IA. N'empêche qu'une IA bien utilisée, estime Zenith, peut être la solution parfaite pour la neutralité. Mais non, parce qu'en fait, l'IA, oubliez le mot intelligence, ça n'est pas une intelligence, ça n'est qu'un programme. Hein. Le programme, il ne sera jamais neutre. Le programme, il est fait par des humains. Donc derrière une IA, derrière, sauf erreur de ma part, il y aura toujours quelque part une intention éditoriale, volontaire ou involontaire, des filtres qui soient volontaires ou involontaires, des valeurs dont on a conscience ou pas conscience. Et vous verrez que les IA en Asie ou les IA en Afrique, les IA en Europe, aux États-Unis, ben, ne penseront pas de la même façon parce qu'elles n'auront pas été pensées par les mêmes humains en fait. Je ne crois pas. Il y a un streamer qui a déjà fait ça et a déjà fait des politiques qu'il veut pour les démos, 404 Not Food. Sache que ce streamer dont tu parles, qui s'appelle Yanis, Defun Intelligence, de son nom de streamer youtubeur, était vendredi dernier, dans l'hebdo Etienne, tu l'as en replay sur Twitch si t'es abonné, et tu l'as également sur ma chaîne YouTube, et on a fait un gros débat sur l'IA, et c'était passionnant. Defun Intelligence. Moi, la question que je me pose, il y a deux semaines, c'est ça, la semaine d'avant. Merci. La question que je me pose, c'est pour un ami, c'est pour un ami que je demande ça. Est-ce que vous pensez que demain, une IA, un présentateur numérique, pourrait faire du stream ? C'est pour un ami. Est-ce que vous pensez que demain, ce travail-là, il pourrait être fait par une IA ? Oui, bien sûr, ça existe déjà. Ouais. Largement, pas du tout. Ok. Comment ça, Rayou, c'est une IA ? Non. Non. Captain Morgan, merci pour le prime, merci beaucoup. En présentation, dit Genesis, oui, mais pas en analyse, / décortiquage, / édito. Bah oui, c'est ça. Tout, les avis, les opinions, les analyses, les blagues nulles, les panda, petit ourson de Chine, les petites chansons débiles. Si remarque l'IA, elle peut faire. Ouais, c'est flippant. Est-ce qu'il me reste un petit peu de temps ? 2h14, quelle heure il est ? Allez, je vais jusqu'à 23h parce que je vous aime bien, parce qu'après, il faut que je bosse. Il faut que je bosse sur l'émission de vendredi. Il me manque un invité, il faut que je lance des invitations, là. C'est lourd, hein, 4 invités chaque semaine. Nom de Dieu, c'est du taf. Hein. Et là, il me manque un invité. Donc, je vais vous lire un dernier article parce que je vous aime bien, qui nous parle de jeux vidéo, mesdames et messieurs. Oui, de jeux vidéo. Eh, hey, vous êtes nombreux. Je ne pensais pas que vous seriez aussi nombreux le soir. Ouais, Alison Wheeler, je l'ai kiffé. Il est où mon article sur le jeu vidéo ? Il est là, c'est un article d'aujourd'hui, c'est un article dans Le Figaro, qui est un des journaux qui, avec les Échos, parle le plus du Figaro. Avis de tempête, alors j'ai lu ça, je fais « What ?» sur le secteur du jeu vidéo, licenciements et fermetures de studios se multiplient, mais qu'est-ce qui se passe dans une industrie contrainte de se serrer la ceinture ? 830 postes supprimé chez le créateur du jeu à succès Fortnite. L'annonce le 28 septembre du licenciement de 16% de la masse salariale chez le groupe américain Epic Games est le point d'orgue d'une série de mauvaises nouvelles dans le secteur du jeu vidéo. Le même jour, Sega annonçait l'arrêt de plusieurs projets en Europe, dont l'ambitieux jeu en ligne Yenas, en gestation depuis 5 ans. Le groupe suédois Embracer, qui a racheté avec un appétit vorace des dizaines d'entreprises du gaming ces 3 dernières années, a annoncé un grand plan de restructuration qui s'est jusqu'à présent traduit par la fermeture de plusieurs studios. Parmi eux, Volition Games, créateur de la saga Saints Row. Cet inventaire non exhaustif peut sembler incongru, alors que les ventes de consoles et de jeux vidéo se maintiennent à un niveau élevé. C'est vrai que ça semble un peu paradoxal, parce que le secteur se porte bien globalement, mais il y a plein de suppressions d'emplois. Alors, est-ce que c'est un creux de la vague, une correction du marché ? Je prononce mal, sans doute, mais IGXB, merci beaucoup pour le 26e. Tu me le dis en plus. Il me dit dans son message, il dit, ça se prononce Gabi. Oh, je suis désolé. Merci Gabi pour le 26e mois. Creux de la vague, correction du marché, fin de l'euphorie, gueule de bois post-Covid, retour à la normale. Les experts interrogés par Le Figaro ne manquent pas de qualificatifs pour décrire cette période marquée par une prudence nouvelle. Voilà. Gabi, je suis désolé. Je suis confus. La flambée des taux d'intérêt a mis, c'est vrai, fin à un cycle où les éditeurs avaient multiplié les rachats. Quand l'argent est pas cher, on investit beaucoup. Tandis que les fonds d'investissement appâtés par les performances du jeu vidéo, ainsi que par les promesses du Web3 et le fameux métavers, multipliaient des prises de participation qui aujourd'hui sont jugées un petit peu déraisonnables. Traduisez, il y a des mecs qui ont un petit peu rêvé, l'argent était pas cher, qui ont mis plein de thunes. Plein de thunes sur des trucs, et puis en fait, voilà, c'était un petit peu inconsidéré comme investissement. Les éditeurs ont aussi commis des erreurs. On est dans le Figaro GTO. Le français Nacon, on dit Nacon, je prononce bien, a mis 53 millions d'euros sur la table pour acheter en 2022 l'allemand Dedelic. Un an plus tard, son studio interne de développement a été fermé à la suite du cuisant échec critique et commercial de son jeu Le Seigneur des Anneaux Gollum. C'était nul, Le Seigneur des Anneaux Gollum ? C'est le métaflop, me dit Randil. Denis, bonne nuit. Merci. Pensez à moi demain, j'en reviens. Hachier, moisi, très nul. Le flop, pire jeu ever. On dit Gollum, hein ? Moi, je disais Gollum. Mais pourtant, dans le film, en VO, c'est quand il prend sa voix bizarre, il fait Gollum, Gollum. Il dit pas Gollum. En VO, là, vous savez, quand il est en mode My Precious, là, il dit Gollum, Gollum. Il dit pas Gollum. Moi, je suis en mode VO, quoi. Qui dit Gollum ? À Créteil, vous dites Gollum. Mais dans le film, c'est Gollum, Gollum. Non, je le fais pas bien. Non, comment il fait ? Hein, c'est vrai ? Que Gollum ? Il dit pas Gollum, il dit pas Gollum, il dit Gollum. Hein ? On dit Gollum. Ok. Le chat a toujours raison. C'est parti. Donc c'était nul. Ok. Il y a Rainbow qui dit bah, arrêtez, vous faites peur à mon chien. Oh, c'est trop mignon. Oh, on va faire flipper ton chien un petit peu. Gollum. Clara Dodi, merci beaucoup pour le 26e mois d'abonnement. Si ma femme regarde ce stream, elle dit putain, j'en peux plus. Il a perdu la boule. C'est trop mignon. Il y a Loke qui nous regarde depuis la couchette d'un train de nuit. MDR, le Wi-Fi de la SNCF est top, je recommande. Bon voyage. Alors, donc, il y a des erreurs de studio, d'éditeurs. Le Covid a aussi généré beaucoup de retard dans les productions et nous nous retrouvons en 2023 avec un embouteillage de jeux de bonne qualité. Or, le portefeuille et le temps disponible des joueurs sont pas extensibles à l'infini. Donc en fait le Covid a fait qu'il y a plein de jeux qui sont sortis en même temps, et vraiment tu peux pas acheter ni jouer à 1000 jeux en même temps. Même si je connais quelqu'un dans mon entourage proche assez âgé qui va se lancer dans une grande carrière de gaming tout à l'heure. Au vu de cet engagement, l'éditeur français Focus Entertainment a décidé en dernière minute par exemple, de basculer de novembre à février 2024 la sortie de son jeu Banishers Ghost of New Eden. C'est bien ça, Banishers, le truc qui arrive là? Ça arrive? C'est bien ou pas? Voilà, un autre chiffre illustre cette surproduction, je trouve ça fascinant. Il y aurait trop de jeux vidéo qui sortent en même temps, quoi. De 2020 à 2023, 13 500 jeux vidéo sont sortis sur la plateforme de vente Steam, leader sur PC. De 2020 à 2023, 13 500 jeux vidéo sont sortis sur la plateforme de vente Steam. Dans pas longtemps, je vais avoir un compte Steam, moi aussi. Oui, oui, oui. Les trois quarts ont généré moins de 5 000 $ de vente. Vous avez les trois quarts des 13 500 jeux vidéo sortis de 2020 à 2023 sur Steam qui ont rapporté moins de 5 000 $ de vente, quoi. Voilà. Donc, je le trouve très bien fait, cet article. Donc, le secteur se porte bien, les consoles se vendent, les jeux se vendent, mais il y en a peut-être trop notamment de mini-jeux, en tout cas de jeux qui ne trouvent pas leur public. Et puis, il y a eu des investissements un petit peu inconsidérés. Bon, c'est pas inintéressant, hein? Voilà. Les amis, bye bye, adios, hasta luego, vamos nos! Porque, porque te vas? Porque te vas? Porque te vas? Porque te vas? Bref, je m'en vais, c'est ça que je voulais vous dire. J'imagine quelqu'un qui arrive sur la première fois sur ce stream, les autres vous êtes habitués. Non, le soir on fait pas d'horoscope. Je sais que je vais devoir travailler. Non, il y a pas d'horoscope. Parce que je vais bosser là. Il faut que je bosse sur le quatrième invité. Je n'ai pas le quatrième invité de vendredi. Voilà. Et vous dans le chat, ah bah t'es qu'à rester à 3. Non, je me dois. D'un certain standing, d'une certaine qualité. Voilà. C'est une émission avec 4 invités. Il y aura 4 invités. Voilà. Donc, j'ai mes 3 invités. Je cherche un 4e invité. Je vais le trouver. Je vais envoyer des messages toute la nuit. Et je vais me réveiller à 5h du mat pour lire les journaux. Et je vais aller à Question pour un champion demain pour enregistrer 6 émissions. Et il faut que je bosse sur plein de projets Twitch aussi, j'ai promis. Je vous embrasse. On fait un raid, bien sûr. Allez, je vous mets. Ça, c'est mon petit macarade. Je vous mets 2 minutes de musique. On n'a fait aucune pause pendant ce stream. On est vraiment les machines. Je vous mets 2 minutes de musique. On remet la musique du début qui était super cool, là. Deux minutes de musique pour les abonnés. Une petite pub pour les autres. Dans 2 minutes, on se retrouve. Et on fait un raid tous ensemble. Vous êtes nombreux. On va en profiter. Et je tiens à vous remercier d'avoir été aussi nombreux ce soir. Et d'avoir, sur un thème aussi compliqué que le Proche-Orient, malgré vos différences d'analyse sur le sujet, mis de l'intelligence, mis de la compréhension dans vos débats entre vous. Vraiment, je vous applaudis. Je le pense sincèrement. Bravo. Et merci au Modo aussi. 2 minutes de musique, 2 minutes de pub. À tout de suite pour le raid. Bande de belles personnes. C'est ça que je voulais mettre ? J'ai un doute. C'est ça que je voulais vous mettre. À tout de suite. I can't see.
on my feet and I'll try to move away from it all.
Ok, j'ai trouvé. Ouais, j'avais bien envie d'aller voir Lady Sunday. Vous m'avez signalé que Sunday était en stream. Sunday qui nous a régalé, qui a tellement été cool dans sa pédagogie vis-à-vis de WoW, de World of Warcraft dimanche dans Simplay. Elle est en live si vous voulez. Mais on m'a fait une autre proposition. Sunday a déjà une belle communauté d'un streamer qui a actuellement 98 viewers. L'idée du raid, c'est aussi de donner des petits coups de pouce à des créateurs de contenu sur Twitch. Voilà, hop, je charge le nom de sa chaîne. Je vais vous la donner d'ailleurs si jamais vous vous perdez en cours de raid. Voilà, on va voir le Bourlingueur, 98 viewers qui m'a été conseillé dans le chat. Je charge le raid, voilà. Saluez-le de ma part, passez une belle soirée. Soirée, une IA n'aurait pas bugué. Soyez heureux, rendez les autres heureux autour de vous. Je vous dis pas demain matin, mais sans doute à demain soir. Voilà, on essaie de streamer tous les jours désormais. Voilà. J'essaie d'être là avec vous le plus souvent possible. Passez une bonne soirée, je vous dis à demain. Voilà, et c'est parti pour le raid. 3, 2, 1. Bonne soirée, bonne nuit à tous. Merci pour ce soir. Ciao, ciao.